Bon, je suis très impressionné par le silence qui règne dans cette pièce et qui me paraît d'une remarquable éloquence. Donc, nous sommes là pour la cinquième séance du cycle RES. En fait, c'est la sixième parce qu'il y a eu une séance RES 0 qui était la conférence que j'ai faite sur la nécessité d'ouvrir de nouveaux espaces critiques dans le cadre du séminaire CDE. Pour ceux qui n'ont pas assisté à l'ensemble des séances précédentes du cycle, il y a donc eu cette conférence inaugurale qui s'appelait Ouvrir de nouveaux espaces critiques, clarifier, renouveler, pluraliser les ancrages normatifs des recherches. À l'oral, ça s'appelait D'où et à qui parlons-nous? Et c'est encore la question qui va nous occuper aujourd'hui. Donc, la séance RES1 avait lancé la démarche analytique, RES, analytique au sens de l'analyse institutionnelle. C'est bien une sorte d'analyse institutionnelle qu'on est là pour faire. La séance RES3 avait précisé les bases sur lesquelles pouvait reposer une telle analyse institutionnelle en s'appuyant sur les travaux de Louraud sur l'usage des concepts de la psychanalyse ou de la clinique dans le champ des institutions. La séance dernière avait eu lieu à Montpellier, elle s'appelait L'agrocentrisme est-il un humanisme? Son objectif, c'était de déblayer le terrain en montrant le caractère trompeur de toute une rhétorique qui essaye d'opposer l'homme d'un côté des intérêts humains, de l'autre côté la nature, dans une optique générale qui est de disqualifier les revendications environnementales et écologiques. Donc, maintenant que le travail de déblayage sur cette rhétorique a été, de mon point de vue, fait, la question qui se pose maintenant, c'est d'où est-ce que nous parlons? C'est un petit peu consternant la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, puisque je vais parler de ce que nous savons tous déjà. Je pense que personne n'apprendra rien aujourd'hui, et quand j'ai résumé mon intervention à un ami et penseur proche avant-hier soir, il m'a avoué sa déception d'avance, puisque le sujet, on ne voit pas ce qu'il y a de nouveau à en dire, et il n'y a rien de nouveau à en dire. On sait déjà, mais tout le monde sait, que quand quelqu'un... Vous interpellez quelqu'un sur quelque chose qui vous pose un problème et qui vous dit je sais, ce qu'il signifie, c'est je ne veux pas savoir ou je n'ai pas envie d'en parler ou je ne peux rien faire, donc de toute façon, c'est pas la peine d'en parler. N'empêche, à la suite des deux séances précédentes, il est important qu'on puisse se donner un moment analytique, c'est-à-dire de mettre les mots sur cette situation dans laquelle nous sommes prises. Et dans laquelle il faut tenir, dedans et tenir, je vous rappelle, c'est les deux concepts clés ou les leitmotifs que j'avais introduits dans la conférence RES 1. Alors, je vais m'y prendre en deux grandes parties. La première va développer l'argument, et l'argument est entièrement dans le titre. Donc je suis un petit peu confus de la lourdeur du titre, ce que j'ai exprimé dans le mail en mettant SIC. Mais puisqu'on est dans le domaine du refoulement, j'ai cherché une solution pour que, une fois que la chose soit dite, elle soit plus difficile à refouler tout de suite. Donc j'ai tout mis dans le titre et je commencerai par déplier le titre. Après, j'essaierai d'appliquer à l'analyse de cette situation institutionnelle de la recherche les propres outils conceptuels que nous avons développés avec l'analyse stratégique de la gestion environnementale. Et puis une fois que ça ce sera fait, on va pouvoir s'intéresser aux mécanismes de brouillage de sens qui prévalent dans les discussions où nous sommes tous pris notamment à l'interface agriculture-environnement. Et on va voir qu'est-ce qui relie ces brouillages de sens et puis l'impensé sectoriel et puis l'organisation pratique de la recherche. Dans la deuxième temps, eh bien, on viendra aux questions pratiques. Qu'est-ce que ça nous apprend pour ce qu'on fait? Et puis, enfin, aux conséquences, et puis aux conséquences théoriques, qu'est-ce que ça nous enseigne pour la suite de notre travail de recherche? Quand je dis notre, c'est le travail du groupe de recherche, en fait, ou du réseau. Alors, on va commencer par déplier le titre. Je vous rappelle le titre, c'est le complexe français d'administration agricole des idées. Un pensée sectorielle et des orientations programmatiques des recherches environnementales. Je sais, c'est difficile à avaler, mais du coup, mon problème, c'était de trouver un truc difficile à recracher. Donc, donc je vais vous aider à l'avaler c'est gaulé de manière qu'après, normalement, c'est à peu près impossible à recracher. Donc, premier thème, l'importance de la dimension idéale, les idées. Pourquoi elles sont importantes, les idées? Pourquoi c'est ça qui est crucial dans notre affaire? D'abord, parce qu'elles sont décisives dans l'orientation des recherches. Quand on construit des programmes de recherche, qu'on donne de l'argent aux chercheurs, qu'on organise des grandes écoles ou des organismes de recherche, eh bien, il y a un débat d'idées qui est déterminant pour savoir si on va aller creuser plutôt par ici ou plutôt par là, y compris dans les recherches les plus techniques et les plus empiriques. Pour nous qui sommes, pour beaucoup, dans des disciplines qui sont plus directement interprétatives, les sociologues, les sciences politiques, les sciences de gestion, etc., là, les idées jouent encore un autre rôle. Elles sont au cœur même de notre travail. Notre travail, c'est un travail des idées. La vie des idées, c'est le travail même sur lequel, dans lequel nous sommes engagés. Or, ce travail des idées, il ne se fait pas dans le vide. Nous échangeons nos interprétations dans le cadre d'organisations concrètes. Même si on aime bien avoir l'impression inverse, qui est très agréable. Pourquoi administration des idées ? On pourrait, dans d'autres contextes, mettre l'accent, par exemple, sur la politique des idées, ou sur d'autres aspects du travail et de la vie des idées. Pourquoi, d'après moi, le problème se pose en termes de prédominance de l'administration des idées ? D'abord, parce que nous sommes dans une organisation de plus en plus administrative du fonctionnement même des organismes de recherche et d'enseignement supérieur. Dit autrement, si les contenus que nous manipulons en tant que chercheurs ou qu'enseignants-chercheurs sont des contenus conceptuels, théoriques ou de travail de recherche empirique, la manière de les faire bouger est de plus en plus organisée comme un travail de bureau au sein d'une administration. Et il est difficile de penser que ça n'ait pas d'impact sur le contenu et la portée de ce qu'on fait. Et si je me laissais aller à faire un pastiche de Léo Ferré, je dirais « la pensée administrée produit des pensées administratives ». Il y a une deuxième raison, et qui est très importante dans notre champ, c'est que l'administration de nos organismes de recherche et d'enseignement supérieur est le fait d'une administration technique et sectorielle, qui est celle du ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire que la quasi-totalité des chercheurs français et des enseignants-chercheurs français qui sont dans le champ agriculture et environnement sont payés et, par le ministère de l'Agriculture ou par des établissements publics qui en relèvent et sont encadrés par des organisations dont la gouvernance est assurée par le ministère de l'Agriculture. On n'est pas dans des cadres d'autogouvernance comme dans une université ou, dans des organisations de ce type-là. Ma thèse, c'est évidemment que ce double fait a un impact profond sur les thématiques, les modes de travail, les conceptions théoriques et les postures des chercheurs et des enseignants. Il faut y ajouter le fait de subir, d'une part, la contrainte administrative interne des modes de travail du secteur scientifique français, et d'autre part, la contrainte spécifique de l'administration agricole et de ses logiques sectorielles, crée une double contrainte au sens de l'école de Palo Alto. Et donc, beaucoup de ce que nous vivons, et des contenus et des dynamiques de recherche, s'expliquent par cette double contrainte qui nous fait basculer dans des formes de schizodoxie. Je renvoie au vocabulaire que j'avais proposé dans la séance REST 3. Donc, on est sous une double contrainte généralisée qui crée un champ de force schizogène au sein duquel on a tous ces problèmes de brouillage de sens sur lesquels on va revenir. Ensuite, j'ai parlé du complexe français d'administration agricole des idées. Alors, complexe dans un double sens. D'abord, au sens d'une technostructure. La technostructure, vous savez que c'est un mot qui a été proposé il y a longtemps par un économiste américain qui s'appelle Galbraith. Ce que Galbraith voulait dire, c'est la chose suivante. On nous raconte, certains économistes, que la vie économique, c'est le résultat des clients, le marché et des entrepreneurs. Mais en réalité, quand on observe les entreprises modernes, on s'aperçoit que leur organisation propre, l'expertise qu'elles maîtrisent, les conditions internes de leur débat, exercent en fait un pouvoir qui est plus déterminant que celui des clients et de l'individu abstrait que serait l'entrepreneur. C'est ça la technostructure. Par analogie, dans notre champ, nous aimons nous raconter, on en verra après des exemples, qu'il y a d'un côté un public qui a des besoins, une société qui a des besoins, de l'autre côté une science qui se gouverne et s'administre elle-même. Mais en fait, quand on regarde l'organisation concrète de la production, de l'échange, de la reproduction des idées et des travaux scientifiques, ils sont pris en main par une technostructure organisée, l'INRA, le CEMAGREF, l'AGRO, etc. Et que cette technostructure pose elle-même les questions et fait les réponses. Et elle pose les questions, elle fait les réponses en fonction de ses centres d'intérêt propres. Et quand je dis centre d'intérêt, j'utilise cette expression parce qu'elle s'ancre très bien à la fois dans le monde de l'organisation et de la stratégie et dans le monde du concept. Les idées s'organisent autour des centres d'intérêt de la technostructure. Par ailleurs, ce mot de complexe, il est très intéressant dans l'optique d'analyse institutionnelle parce qu'il renvoie, c'est un des concepts clés de toute analytique clinique, il renvoie à une instance qui n'est pas visible, mais qui se manifeste par sa capacité à structurer d'une certaine façon les idées et les associations d'idées, et à empêcher d'une autre façon que certaines idées soient entendues ou que certaines structures d'idées et d'argumentation puissent être pensées, discutées, échangées. Français. Alors ce complexe, il n'est pas que français, c'est clair. On est dans des mouvements d'idées mondiaux. À la fin des années 80, l'éclipse du thème environnemental, puis son ressurgissement, a bien montré que cette dynamique était mondiale. Mais chez nous, ces mouvements prennent une amplitude qui est incomparablement plus forte que dans d'autres pays, pour beaucoup de raisons. D'abord parce que chez nous, la pensée est plus administrée. Ensuite, elle est beaucoup plus agricole. Il y a un poids du secteur agricole dans notre pays. Et il y a un mode de fonctionnement spécifique de l'enseignement supérieur, en particulier, et de la recherche, qui font que ces oscillations et la dialectique qui les sous-tend prennent chez nous, d'abord sont calées différemment dans leurs équilibres, et puis prennent chez nous une amplitude beaucoup plus forte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, beaucoup d'autres le vivent, en termes de perte de sens, dans le champ de l'environnement et de rééquilibrage en défaveur des revendications environnementales. Mais chez nous, ça se traduit d'une manière à la fois concrètement par des formes particulières et avec une ampleur qui est particulière. Alors, l'impensé. Ce qui est idiot, c'est que j'ai laissé mes notes dans mon bureau. Donc, l'impensé, c'est une notion qui est un peu le pendant de l'inconscient dans une démarche institutionnelle. On ne peut pas parler de l'inconscient de l'école du génie rural, des eaux et des forêts. En revanche, il y a de l'impensé. Et l'impensé, c'est le fait que la manière dont nous posons les problèmes masque d'autres manières de poser les problèmes. Il y avait une splendide citation d'Althusser, mais elle est dans mes notes dans le bureau. Donc, quelque part, toute pensée, tout travail théorique, tout enseignement, comporte un vide logique, un point aveugle qui est associé au plein que constitue la formulation des idées. Avancer une idée, c'est créer de l'impensé quelque part, ailleurs. Donc, il y a donc des fondations décisives auxquelles toute place est refusée dans le fondement, c'est-à-dire dans l'explicitation de ce qui fonde le travail des idées. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller voir si on peut cerner cet impensé. On ne peut pas le dire, mais au moins on peut le cerner pour comprendre de quoi il retourne. Alors pourquoi cet impensé est sectoriel? Je pense que là, on touche à un point clé des divergences entre le travail qu'on essaie de conduire depuis une dizaine d'années et la plupart des autres approches théoriques ou pratiques dans le champ de l'environnement et du développement durable, avec qui nous sommes en dialogue en France. Nous considérons que le caractère sectoriel du développement, le développement industriel, le développement agricole, etc., et la dynamique intersectorielle qui se produit quand l'environnement la revendication environnementale se heurte à des dynamiques sectorielles, n'est pas un aspect parasite, mais le cœur même du traitement pratique et de la formulation des problèmes environnementaux. C'est une des bases de notre travail. Alors que, on le verra, et pour nous, c'est également déterminant pour l'organisation concrète de l'enseignement supérieur et de la recherche. Quand je discute avec des chercheurs de la technostructure agricole, très rarement, ils explicitent leur appartenance à une structure agricole. Ils explicitent leur appartenance à un monde académique, à un monde d'enseignement supérieur. Le côté sectoriel de l'organisation de l'activité est impensé. Et non seulement il est impensé par défaut, mais il est dénié, réprimé, refoulé, au sens qu'on peut donner dans toute démarche analytique clinique à ces termes. Et ça se traduit, parmi d'autres choses, par dynamiques de substitution. On va vous dire, nous ne sommes pas dans un dialogue sectoriel entre les intérêts agricoles et des intérêts écologiques. Nous sommes dans un dialogue entre des intérêts locaux et un centralisme, entre des intérêts humains et des intérêts de deep ecology, entre des scientifiques et des profanes. Et donc, il y a non seulement là un impensé qui tient à la fondation du problème, mais un travail actif de dénégation, de répression et de refoulement de l'importance du sectoriel dans ce qu'on fait. Alors pourquoi ça se traduit par une désorientation et quel est le problème au fond? D'abord, c'est un problème pratique, c'est-à-dire que comme on reformule sans arrêt le problème pour ne pas avoir sa dimension de divergence et de négociation intersectorielle, on essaye de traiter des problèmes qui sont en fait des symptômes du déni du problème, des problèmes de localisme, de participation, de ceci, de cela. Donc, on travaille déjà sur du fragile. Du point de vue de la recherche et de l'enseignement, l'impact est dévastateur. Pourquoi ? Parce que nous traitons des contenus de connaissances et des concepts, mais dans un contexte de perte de sens. Qu'est-ce que c'est le sens ? Ce n'est pas seulement de désigner des choses, c'est aussi de s'orienter dans un espace de pensée et d'action. Quand quelqu'un parle d'environnement, c'est intéressant de savoir si ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut plus ou moins d'environnement, ou plus ou moins de réglementation. Quand il dit plus d'environnement, est-ce que ça veut dire plus d'oiseaux, ou est-ce que ça veut dire plus de maïs? Donc le sens, c'est une valeur d'orientation. Qui parle à qui, pour dire quoi, pour faire quoi? C'est pas simplement on bouge des concepts, on bouge des données, et puis on voit ce que ça donne, quoi. Et du coup, on se retrouve pris, à cause de tous les éléments que je viens de passer en revue, dans une production permanente de paradoxes et de fausses pertes de sens. Par exemple, quand vous écoutez des discours d'acteurs sur l'environnement, vous allez entendre des choses comme « l'espèce menacée, c'est l'homme ». Ou bien « protéger la nature, quelle nature ? Il n'y a plus de nature ». En fait, nous allons voir qu'on est ramené à un cas, une formule générale qui est bien connue, qui est « nous avons la réponse, mais au fait, quelle était la question ?» On va reprendre ça sur plusieurs registres de sophistication intellectuelle dans cette séance. Alors, on est dans la désorientation, c'est la perte de sens, la désorientation. Et dans la désorientation programmatique, dans un double sens, c'est-à-dire que d'une part, l'organisation concrète des programmes d'enseignement. Qu'est-ce qu'on va apprendre aux étudiants? Est-ce qu'on crée une voie d'approfondissement ceci ou cela? Et dans les programmes de recherche, à qui on va donner de l'argent pour faire quel genre de recherche? Ça, c'est la désorientation des programmes. On ne sait plus. Si on a un brouillage du sens, on ne sait plus. Où on désoriente aussi des programmes. Mais aussi, dans un sens plus conceptuel et plus profond, c'est une perte de sens dans le programme même, la logique directrice interne des travaux scientifiques. Donc ça, j'y reviendrai aussi. Du coup, c'est pas seulement les conditions concrètes, l'argent, l'organisation, les postes, dans nos recherches, notamment sur sciences sociales et gestion, qui sont touchées par le déni du fondement sectoriel de notre travail. C'est aussi son cœur même. Les concepts même sont touchés, les questions sont touchées, n'arrivent pas à tenir, Et c'est ça la désorientation programmatique. Bon, quant à l'environnement, on s'aperçoit que le mot a un statut de plus en plus précaire, d'une certaine manière. On dit environnement, puis ça se remplace par développement durable, biodiversité. Le mot flotte d'une certaine manière. Quand on discute sur le futur grand établissement, on s'aperçoit que le département production végétale, on pourrait l'appeler département environnement. Donc, le mot flotte. L'existence même du domaine, son sens, son périmètre sont en question. Et on verra, je passe là-dessus très vite, que ici on entend l'environnement comme le traitement des enjeux écologiques dans un cadre d'action de société et de pensée où le modèle du développement est le modèle dominant d'organisation et de réflexion. Donc j'aurais pu ajouter au titre qu'on désoriente programmatiquement les recherches, mais aussi, évidemment, les enseignements et l'action. Nous sommes complètement pris dans cette désorientation. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour... Donc, tout était dans le titre, voilà. Si vous vous rappelez le titre, vous vous rappelez l'argument. On va creuser un petit peu quand même, parce qu'on a la plaque. Maintenant, on va essayer de la visser dans le support. Ah, tu verras, il y a un quiz à la fin. Donc, voilà, il faut remettre le titre dans l'ordre, exact. Exact. Alors, donc, notre problème maintenant, c'est quel outil intellectuel, théorique, on va pouvoir utiliser pour penser cette situation de désorientation du sens. C'est un peu paradoxal parce qu'on est pris dedans. On est dans la perte de sens, on va essayer de fabriquer du sens. Je vous rappelle la citation de Deleuze que j'avais mis en exergue de toute la série et qui avait été choisie par QC aussi pour l'exergue de son livre sur la French Theory. « La théorie elle-même est une pratique, autant que son objet. Elle n'est pas plus abstraite que son objet. C'est une pratique des concepts et il faut la juger en fonction des autres pratiques avec lesquelles elle interfère. » Donc c'est bien là, on est bien dans nos baskets, j'allais dire, c'est-à-dire que en principe, les idées et théories sur la gestion environnementale sont une action stratégique et donc on va plonger notre travail conceptuel dans le contexte d'action pratique que constitue l'organisation et les fondements organisationnels de notre recherche et on va voir ce que ça donne. Alors, donc, je vous renvoie à l'article fait avec Raphaël, Maya, Xavier, je ne sais pas si j'oublie quelqu'un, et Jean-Baptiste, dans lequel on a essayé de résumer l'axiomatique qui fonde nos travaux dans NSS. Donc, cette axiomatique, elle est posée en 4 points. 1. L'explicitation d'un objet-problème écologique. On doit déclarer avant d'étudier de quoi on parle et quel est l'enjeu par rapport à ce quoi dont on parle. Est-ce que c'est un problème d'ours? Est-ce que l'enjeu, c'est la viabilité des ours, par exemple? 2. On doit créer les conditions d'une enquête sur la gestion effective de ce problème, c'est-à-dire structurer l'analyse du système à partir des conséquences de tout ce qui se passe sur l'objet-problème qui sert de référence à l'analyse. 3. On doit ouvrir un autre axe de travail qui adopte comme point de repère la position d'action stratégique de l'acteur de changement environnemental, de celui des acteurs pour qui la résolution de l'objet problème écologique est l'objectif de référence et pas un objectif parmi d'autres. Et on doit construire une analyse du problème à partir aussi de ce deuxième point de référence. Et puis, en faisant ça, on débouche sur une vue dynamique du système de gestion qui change et se structure sous l'effet des conflits, c'est la gestion émergente, mais une grande différence avec d'autres théoriciens de nos amis, c'est que nous ne sommes pas prêts à nous contenter de constater ces transformations et ces émergences, mais nous exigeons qu'elles soient comprises par rapport à l'objet-problème écologique qui sert de référence au départ. Ce point-là est absolument central pour nous. Au total, là je m'appuie encore sur des travaux de Deleuze dans la manière de formuler, mais on pourrait le formuler de plein d'autres manières. L'environnement, les recherches, l'enseignement supérieur sur l'environnement, il se déroule dans un espace de sens qui est construit par la rencontre de deux séries. Une série écologique, on veut des fleurs, on veut des oiseaux, on veut de l'eau propre, etc. Et puis, une série développementiste, faut produire à bouffer, on veut des bagnoles, etc. etc. Et c'est le fonctionnement de ces séries, leurs rencontres, leurs contradictions, leurs recherches de synergie, leurs négociations, qui est pour nous fondatrice de l'espace de sens du domaine environnemental. Donc chaque série a ses attentes, sa dynamique, son portage social, son histoire, ses instances d'expression, son répertoire d'objets, de personnes, de rôles, de langage propre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une grande partie du problème vient du fait que l'un ou l'autre de ces attributs est souvent dénié à la série écologique ou à la revendication environnementale. Par exemple, d'aucuns vont lui nier son répertoire d'objets propres. Si vous dites, nous, ce qu'on veut, c'est de la faune et de la flore en forêt, certains organismes vont vous traduire ça par un indice mathématique dans lequel, quelque part, vos objets n'existent plus. Et, point absolument crucial, chaque série n'a pas de sens en elle-même. La série de l'environnement n'a pas de sens sans la série du développement. S'il y a une série de l'environnement, c'est parce qu'il y a un désir d'environnement, une préoccupation écologique, et que cette préoccupation interagit avec d'autres préoccupations. Et donc chaque série se construit pas uniquement sur ses logiques propres, on n'est pas dans des bulles autistes de développement des séries, mais au contraire dans le fait que chaque série se réfère à d'autres séries pour se construire. Dans les séries, les points clés de la réflexion sont d'abord les points de rencontre. Les points de rencontre entre agriculture, environnement ou forêt et environnement, ça c'est ce que les politistes appellent les issues. C'est-à-dire un problème qui va surgir dans le débat politique et qui vient non pas d'une série, mais de la rencontre de deux ou de plusieurs séries et qui, à un moment donné, va devenir le point focal de la discussion. Le point capital dans notre propre perspective, c'est que contrairement à certaines approches théoriques qui pensent qu'on peut fonder une analyse durablement sur des issues, nous, on pense que les issues sont instables, puisqu'elles sont le point d'émergence, de rencontre, le moirage qui se produit quand on passe l'un sur l'autre deux tissus. Et donc, les issues, c'est absolument capital, mais elles sont à replacer dans le mouvement des tissus qui produisent la moire. C'est très difficile de fonder une analyse sur une moire sans s'intéresser aux tissus qui la produisent. D'autre part, chaque série dans la vie sociale est incompréhensible si on ne s'intéresse pas à ces points remarquables. Quand on est dans le domaine de l'agriculture, on s'intéresse aux taureaux de concours, au rendement record dans des champs de maïs, à l'exploitation pilote, etc. etc. Quand on est chercheur en physique au CNRS, à la cantine, on parle du prix Nobel. Et quelle que soit l'analyse des séries, les séries ont besoin des points remarquables pour prendre du sens. Il y en a qui me voient venir. Donc, le sens de ce qu'on dit quand on écrit des articles scientifiques, quand on parle aux étudiants, etc., naît donc de la rencontre des séries. Les séries évoluent dans le temps. Et donc, si on applique ça à notre champ, enseignement supérieur et recherche sur l'environnement, l'espace de sens environnemental repose sur trois repères. Pour qu'il existe, il faut trois choses. Il faut qu'il y ait une série agricole en évolution, une série environnementale en évolution. Je me concentre sur l'aspect agricole, je reviendrai après là-dessus, mais on est vraiment là-dessus aujourd'hui. Et puis, il y a une évolution des événements, des issues, de la moire qui résulte de ces croisements. Et c'est ça qui permet de lire, dans toute sa complexité et son caractère mouvant, notre domaine. Un point clé de l'affaire, c'est que le domaine de l'environnement repose sur une demande minoritaire de changement. Les acteurs qui revendiquent plus d'écologie sont minoritaires au sens du système d'action. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins nombreux que les autres, ce n'est pas le problème. Ça veut dire qu'ils sont dans une situation qui les rend isolés par rapport à des centres de pouvoir qui, eux, ne le sont pas. Face à cette demande, et ce point est crucial dans nos analyses. Donc on a la série du développement agricole dans notre cas, les séries environnementales. Si on allait dans le détail, en fait, on s'apercevra qu'il y a plusieurs séries environnementales, plusieurs séries agricoles. La série de développement ou les filières de développement ont une réponse qui n'est pas une réponse simplissime. Elle répond par le rejet des revendications environnementales au départ. Elle répond en même temps par la récupération. C'est-à-dire que la série environnementale, elle consiste à soulever des problèmes, à pousser des problèmes. On est dans l'optique des lanceurs d'alarme notamment, mais ça va plus loin que le lanceur d'alarme. C'est le portage d'un problème qui est en jeu. Et ce problème, il est partiellement rejeté, partiellement récupéré. Par exemple, il y a une partie des militants d'associations écologistes qui vont être embauchés dans des instances des filières de développement, et puis d'autres qui vont être mis à la rue. Il y a une partie des problèmes des objets qui vont être pris en charge par des actions de gestion, puis d'autres qui vont être évacués. Ça, c'est le premier niveau d'analyse. C'est celui qui était le plus visible dans les années 60, 70, 80. Au-delà de cette dynamique de rejet-récupération qui existe toujours, il y a une complication progressive du système qui fait qu'une fois qu'une revendication environnementale a été appropriée, elle fait aussi l'objet d'un travail de redéfinition. Elle n'est plus la même une fois qu'elle est appropriée. Elle continue sa vie, elle continue à être redéfinie. Et puis, de leur côté, les gens de la série environnementale, il faut qu'ils redéfinissent d'autres objets ou enjeux. Et puis, il y a un double travail de répression et de subversion des instances de revendication ou d'évaluation environnementale par les acteurs des structures de développement. Là-dessus, à chaque séance, je cite Andrew Rowell, dont le livre sur la réaction anti-environnementale de 1996, Green Backlash, est pour moi une référence importante. Donc, si on accepte de prendre comme repère la série environnementale ou telle et telle série environnementale, la série agricole ou telle et telle série agricole, le fait que ces deux séries créent un espace complexe, structuré, mais dans lequel on peut conserver la lisibilité des instances qui parlent à qui, on peut avoir un espace structuré de sens, même s'il se transforme. Alors, tout le problème se pose quand ça se met à dysfonctionner. Et donc, l'intérêt qu'on a là, c'est de regarder les dysfonctionnements, parce qu'on en voit les manifestations pratiques dans notre vie institutionnelle et intellectuelle de tous les jours. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut essayer de clarifier, d'expliciter ces dysfonctionnements dans lesquels on est pris. Je vais vous proposer trois figures qui aident à comprendre ou à dire certaines de ces choses qui se produisent. La première, c'est celle du blocage et de l'enlisement. Ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Il y a des revendications environnementales. Face à ça, les filières de développement reprennent, bloquent, refoulent. Le point, il ne faut pas avoir une vue très négative, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une reprise effective, il y a effectivement des dossiers qui sont appropriés, traités, résolus. Mon optique n'est pas du tout de dire que le système n'avance pas. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de regarder ce qui ne marche pas, hein, de même que dans la gestion d'une entreprise. C'est important de résoudre les problèmes qui ne sont pas résolus et pas seulement de se dire on a quand même on a fabriqué des bagnoles, on n'arrive pas à les vendre, ça c'est autre chose. Non, dans une gestion, ça repose sur le fait de traiter, de s'attaquer aussi à ce qui ne va pas, quoi. Un point clé de cette figure, c'est la neutralisation des instances revendicatives, une sorte de volonté d'éradication. Si vous lisez le numéro spécial du courrier de la planète sur la biodiversité, protéger pour qui ? Ça commence par une phrase du genre « On croyait définitivement oublier les approches en termes de conservation de la nature ». L'idée, donc, au-delà de l'idée de dire « Ok, on a compris, vous avez des revendications de conservation, on va pouvoir les relayer dans une optique de développement durable et de biodiversité participative », non, il y a un pas de plus, et c'est lui qui constitue la répression qui conduit au refoulement institutionnel, qui consiste à dire « Maintenant, il faut arrêter de parler, et vous n'existez plus ». Et en même temps que ce refoulement se produit, ou cette répression, se produit une redéfinition de l'histoire elle-même qui a conduit à la situation. J'ai un souvenir inscrit sur ma rétine, c'est celui d'une émission de télé sur agriculture et environnement en 92, quelque chose comme ça. Et donc il y avait un céréaliculteur qui était là et qui disait « Mais vous savez, nous, on n'a pas attendu les écolos pour faire de l'environnement et pour prendre en charge nous-mêmes l'environnement ». À la même époque, je travaillais depuis longtemps avec Aline Caton sur les facteurs de blocage à l'adoption par les agriculteurs des pratiques agricoles favorables à l'environnement. Donc, ce qu'on avait mis en évidence, c'était 20 ans de travail intellectuel pour nier l'existence du problème, nier l'existence des solutions, ne pas vouloir faire quelque chose. On avait présenté ça à la SFER en 93, je crois. Et donc, le même mois, voir à la télé un agriculteur qui arrive et qui dit « Nous n'avons pas attendu, c'est nous qui mettons le problème sur la table », ça montre bien que cet aspect-là de la dynamique de rejet-récupération est crucial parce que il brouille les pistes. Il brouille les pistes, soit parce qu'il fait oublier les problèmes, c'est le thème de l'amnistie amnésie dans la thèse de Maya Leroy, qui montre comment 100 ans d'échecs des politiques de développement agricole sont oubliés constamment et comment les alertes environnementales, etc., sont oubliées constamment. On est dans un oubli permanent qui, d'une certaine manière, mine complètement à la fois notre possibilité d'enseigner, parce que finalement, pour enseigner, il faut pouvoir poser des choses stables, une histoire, et nos possibilités de recherche. Et puis, il y a aussi un oubli et une redéfinition de l'histoire, même quand ça se passe bien, c'est-à-dire que quand on met en place des gestions concernées, on exclut ceux qui étaient les porteurs de la mise en cause de la revendication qui a lancé la concertation. Et donc, on rentre dans le mécanisme que j'ai appelé l'entonnoir, dans la séance REST 0. C'est un mécanisme d'exclusion par la concertation. La deuxième figure que je propose pour comprendre ce qui se passe quand on discute dans le cadre du grand établissement ou quand on lit les travaux des chercheurs de la technostructure sur l'environnement, c'est une figure d'englobement. Elle consiste pas à dire barrez-vous, on prend une revendication et puis on veut plus vous entendre. Elle consiste à dire mais vous, c'est nous. C'est-à-dire mais l'environnement, c'est nous aussi. C'est un seul problème, il n'y a pas deux problèmes. Il n'y a pas un problème qui est de nourrir la planète et l'autre qui est de continuer à faire vivre des grands singes en Afrique. Il y a un seul problème. Alors, cette involution, elle a ses formes organisationnelles. Quand l'INRA, organisme de recherche agronomique, se présente comme le grand opérateur de recherche sur l'environnement, ou quand le nouvel institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement s'appelle en abrégé AGRO, là, on est devant cette figure de l'englobement. Il y a deux concepts qui l'illustrent merveilleusement sur les 20 dernières années, la biodiversité et le développement durable. Ce qui est intéressant dans cette figure, c'est de s'interroger sur ce que devient la dialectique des séries entre environnement et développement. Sur ce point-là, il y a un paragraphe très intéressant dans l'appel d'offres. Alors, quand je dis APR, ADD, INRA, ANR 2006, voilà, c'est ça l'administration des idées, hein. C'est quand les phrases renvoient toutes à des circulaires. Donc, c'est l'appel à proposition de recherche sur agriculture et développement durable de l'INRA et de l'Agence nationale de l'Institut national de la recherche agronomique et de l'Agence nationale de la recherche de 2006. Il y a là une phrase qui va nous aider à réfléchir à ça. La métaphore des trois piliers du développement durable est inappropriée, voire, excusez-moi la faute d'orthographe, perverse. Elle disjoint ce que la visée du développement durable cherche au contraire à relier et intégrer dans de nouvelles logiques d'ensemble qui transforment chaque pilier de l'intérieur. Je vous rappelle les piliers de développement durable, économique, le développement, social, environnemental. Donc, le modèle initial du développement durable, il consiste à dire il y a trois séries, il faut créer un espace de sens à partir de ces trois séries, et c'est cet espace de sens qu'on va appeler le développement durable. L'appel d'offres, il nous dit la métaphore des piliers est inappropriée, puisqu'elle conserve une disjonction qui est précisément ce qu'il faudrait supprimer par le concept de développement durable. Ce qui compte, c'est de voir comment chacun des piliers peut influencer de l'intérieur les autres piliers. Il donne un exemple. En quoi la prise en compte de l'environnement, le choix de l'exemple d'ailleurs est très marrant, en quoi, par exemple, la prise en compte de l'environnement transforme de l'intérieur les politiques et l'économie de l'agriculture. comment dire, la manière de poser le problème est réellement intéressante parce qu'on est au cœur du sujet. Est-ce que la dialectique entre les trois piliers du développement durable a vocation à effacer les piliers eux-mêmes? Est-ce qu'elle a vocation à créer un espace de sens dynamique où ces piliers conservent leur sens, évoluent et font bouger l'espace de sens? Toute la question est là. Voyons comment la question se redéfinit. S'il existait une symétrie de pouvoir et une sécurité problématique de chacun des trois piliers, ce paragraphe s'interpréterait de manière dialectique. Comment chacun des piliers influence les deux autres? Mais en revanche, il faut s'interroger sur la symétrie entre les trois piliers et sur le devenir de la symétrie entre les piliers ou des dissymétries entre les piliers dans le processus dont nous parle le paragraphe. La question est au fond de savoir qui absorbe qui redéfinit qui et quel est le rapport de force en fait ou le rapport de sens à l'intérieur de cette dialectique. S'il existe une dissymétrie majeure entre un pilier et les autres, alors on rentre dans une dynamique qui est la suivante. La composante minoritaire, une fois qu'elle est au sein du travail majoritaire, entre dans un travail de perplexité et de redéfinition. Elle est de moins en moins comprise, elle est tout le temps redéfinie, comme la protection de la nature qui devient biodiversité. Puis biodiversité, on passe 10 ans à se demander ce que c'est. Alors que la composante majoritaire, l'agriculture, reste l'agriculture. J'ai jamais entendu de gens dire, mais qu'est-ce que c'est la production céréalière? Est-ce qu'on peut vraiment parler de production céréalière? Mais au fond, est-ce qu'on aurait des indicateurs de production céréalière? Donc, la question est, comment dire, le modèle est bon, mais si on ne lui rajoute pas une prise en compte réelle des rapports de force, alors les rapports de sens eux-mêmes sont menacés, puisqu'ils sont inséparables des rapports de sens. Alors voilà des exemples de ce mécanisme que j'appelle l'involution. Quand la dissymétrie se manifeste, on a l'involution. Le problème, une fois qu'il est englobé, descend de niveau logique jusqu'à devenir imperceptible. Il est digéré en fait dans le système. Par exemple, un texte de l'Institut français de la biodiversité que je vous ai cité la dernière fois comme étant un texte de référence sur la réaction anti-environnementale a pour titre des aires protégées pour concilier biodiversité et développement durable. Ah bon? Ah bon? Mais alors, ça veut dire que la biodiversité n'est pas dans le développement durable. Mais on croyait que c'était le pilier environnement du développement durable, qu'il y a une dialectique interne. Ah bon? Ben ça, c'est l'involution. C'est-à-dire que le problème, boum, 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 il descend, il est exclu, il sort. Plus récent, mars 2006, document préparatoire de l'IMOSEB. Alors, comment dire, le travail administratif, 50%, c'est de connaître les sigles. Donc, IMOSEB, c'est je connais pas le sigle, mais je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire. Et justement, tout l'enjeu, c'est de passer des sigles à savoir ce qu'on dit. Donc, le IMOSEB, c'est le projet qui consiste à dire, sur le changement climatique, ils ont eu le GIEC. Le panel d'experts qui va traiter des questions de changement climatique. Donc, sur la biodiversité, on veut un GIEC de la biodiversité, ce sera l'IMOSEB. L'IFB organise il y a 15 jours la négociation internationale qui va vers la mise en place de cet IMOSEB et propose la question fondatrice de ce groupe, Overarching Question, c'est celle qui organise l'espace du problème. Donc, comment pouvons-nous réduire la faim, la pauvreté et la destruction des écosystèmes tout en promouvant la conservation et l'usage durable des ressources? Ça, c'est leur définition de l'expertise sur la biodiversité. Alors, on voit bien ce qui a été montré par certains chercheurs et par le fameux numéro du Courrier de la Planète, que la biodiversité résulte d'un maillage entre la logique du développement, la logique de l'agriculture, une logique tiers-mondiste et la logique de la biodiversité. Mais je pose la question, vous connaissez tous le sketch des Inconnus sur le bon et le mauvais chasseur. Vous connaissez peut-être celui qui est tout aussi bon sur le bon et le mauvais groupe de hard rock. Qu'est-ce qu'un bon chanteur de hard rock? bah, un bon chanteur de hard rock, il monte sur la guitare, sur la scène, il prend la guitare et il crache. Et qu'est-ce qu'un mauvais chanteur de hard rock? Ah ben c'est clair, il monte sur la scène, il prend la guitare et il crache. Ah, maintenant je vous pose la question, quelle est la différence entre un mécanisme international de développement économique, un organisme international de développement de l'agriculture et de l'alimentation, et un mécanisme international de prise en charge et d'expertise sur la biodiversité? Bah, le mécanisme international de développement économique, il réduit la faim, la pauvreté, et tout en promouvant le développement durable. L'Organisation internationale d'agriculture et d'alimentation, bah, lutte contre la faim, la pauvreté, tout en faisant du développement durable. Et quant à l'expertise de la biodiversité, ah bah, lutte contre la faim, contre la pauvreté, tout en faisant du développement durable. Donc vous voyez que le côté un peu abstrait des séries qui se rencontrent de l'espace de sens et du moirage dialectique de la rencontre des séries, bah, ça a un sens très clair. Nous, notre idée, elle est complètement différente. Elle consiste à dire, en fait, le rôle d'un organisme international de développement, c'est de prendre en charge les problèmes de développement économique et de pauvreté. Le rôle d'un organisme mondial qui s'occupe d'alimentation, c'est de prendre en charge les questions de production alimentaire et d'alimentation. Le rôle d'un mécanisme international de biodiversité, c'est de prendre en charge la préoccupation des plantes, des animaux et des habitats. La négociation, elle suppose qu'il y ait des négociateurs. La découverte de nouvelles solutions, elle suppose que le problème soit clairement formulé dans toutes ses composantes. Sur un plan organisationnel, cette fois, donc là, on voit que la perte de sens... Alors, je ne sais pas si les experts internationaux ont validé la formulation proposée par l'IFB, mais la perte de sens a aussi sa face concrète et organisationnelle en reprenant un mot du jargon postmoderne, je propose d'appeler colonisation. Je pense que ça emporte aussi des pistes de réflexion sur ces fameux organismes et leurs racines dans l'histoire. Je parle des organismes de la technostructure agricole française. Colonisation par les personnes, c'est-à-dire que lorsque des domaines englobent d'autres domaines, il y a des échanges de personnel. Il y a bien une dimension organisationnelle. Aussi, on pourrait faire la même chose sur les organismes de recherche. Toute la question est évidemment celle des termes de l'échange. Je n'essaie pas de dire que ces échanges sont forcément neutralisants ou négatifs ou destructeurs. Mais il y a aussi des capacités de croisement, d'apprentissage. Ce qui compte, c'est de regarder ce qui se réalise. Est-ce que ce qui se réalise, c'est une neutralisation, une subversion ou un apprentissage réciproque ? Ce n'est pas la même chose, mais on a bien des exemples concrets d'étroits et de cas où les trois se mélangent dans des proportions qu'il s'agit justement d'étudier. On ne peut pas dire « Ah non, c'est bien, tout le monde se mélange, etc. » Ben, ça dépend. La troisième figure que je vous propose, c'est la polarisation. Donc avec les premières, la première c'était celle du pot de terre contre le pot de fer. Le pot de terre se casse, on prend un morceau, on le met dans le pot de fer. L'involution, c'est le pot de terre, il est petit, on le met entier dans le pot de fer, et puis après, on secoue le pot de fer, puis il se casse à l'intérieur. La troisième figure, c'est celle de la polarisation. Alors, il y a un très bon article de Xavier sur l'évaluation environnementale de la politique agricole, où il explique que il y a deux analyses complètement différentes. Il y en a une qui consiste à voir l'environnement depuis l'agriculture. L'environnement depuis l'agriculture, c'est le 0,5% qui est consacré aux mesures agro-environnementales. Et puis, il y a l'agriculture vue du point de vue de l'environnement. Là, c'est plutôt l'optique l'axiomatique de la SGE, qui consiste à dire, OK, on prend les préoccupations d'environnement et on se demande, à partir de là, que fait l'agriculture aux problèmes environnementaux. Ça, c'est... l'agriculture vue depuis l'environnement. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans le fameux appel d'offres agriculture et développement durable, la distinction est clairement faite. D'un côté, il y a des projets qui sont fléchés comme développement durable et agriculture. Il s'agit d'étudier ce que l'agriculture fait au développement durable et puis comment, quels problèmes l'agriculture pose du point de vue du développement durable. Par exemple, il y a un projet, comment faire pour produire du vin en polluant moins l'eau. Voilà, ça c'est l'agriculture vue depuis l'environnement. Et il y a un autre volet qui est le développement durable vu depuis l'agriculture. Par exemple, le projet, comment on va leur vendre des biocarburants. Ça c'est le développement durable vu depuis l'agriculture. Ce qui est très important de comprendre et qui est impossible à comprendre pour beaucoup, c'est que le regard agronomique peut embrasser tout le champ de l'environnement. Rien ne lui échappe. On peut avoir, comment dire, comme le sociologue Bernard Picon l'a mis en évidence, le problème des flamants roses, on peut le poser comme un problème de production animale. Voilà. En Camargue, il y a un problème de flamants roses, c'est de la production animale. Les éléphants, les rhinocéros. Tout problème peut être vu comme un problème agronomique. Il suffit d'adopter une axiomatique agronomique. Le problème, c'est que l'agronome ne voit pas ce qu'il ne voit pas. C'est-à-dire que, une fois qu'il a vu le problème comme un problème agronomique, il ne peut même pas percevoir l'idée que le problème pourrait être autre chose qu'un problème agronomique. Tout simplement parce qu'il est dans la série agronomique. Pour que du sens autre que celui-là apparaisse, il faut qu'il rencontre quelqu'un qui lui dise, ben merde, le problème de flamant rose, c'est pas un problème de production animale, c'est un problème que tu me fais chier avec tes rizières. Ah oui, alors là. On retrouve du sens. Alors, il se construit pas tout seul, pas tout de suite, mais on retrouve un espace de dialectique. Donc, la discussion est rendue très très difficile parce que notamment dans la série agricole, des gens qui disent, mais nous, on voit tout, on couvre tout. Et quand on leur dit, mais ça, tu le couvres pas, et mais si, ils le voient. Le problème de la production animale de flamants roses, ils le voient parfaitement, il n'y a aucun souci pour eux. Le problème de la qualité de l'eau comme problème de gestion des flux à travers le sol et les hydrosystèmes, ils le voient parfaitement. Ben alors, il n'y a rien d'autre à voir en fait. Donc, la bonne image, c'est la polarisation. Alors, je ne me rappelle plus bien ma physique de base. Cyril se la rappelle mieux, il me l'a prouvé l'autre fois. L'idée, c'est que on voit tout dans ce cas-là, mais sous l'angle agricole. Et puis la série environnementale, elle consiste à tout voir, mais sous l'angle environnemental. Et puis la série du tiers-mondisme, elle consiste à tout voir, mais sous l'angle du souci pour les pauvres. Et en fait, si on s'arrête à dire je vois tout, eh bien, on est dans le comble de l'involution, c'est-à-dire que non seulement le champ agricole a mangé des petits bouts d'environnement, mais ensuite il les a redéfinis de l'intérieur. Et cette redéfinition, elle prend des formes concrètes qui sont subtiles. Alors, outre la forme, il n'y a rien à voir puisque je vois tout, et chaque fois que tu me parles d'un problème, eh ben, moi aussi je le vois. Par exemple, c'est dans un autre registre, mais je ne résiste pas à l'anecdote. Une fois, j'avais fait un exposé sur la prospective dans le cadre du projet Camargue. Et puis, il y avait un économiste motard qui écoute tout l'exposé. Et puis, à la fin, il dit, mais je vois pas ce que ça apporte de plus que l'économie, puisque nous, on fait des courbes où il y a le temps en abscisse. Donc, c'est bien de la prospective. Et puis pour lui, le problème était réglé, quoi. Donc, on ne voit pas ce qu'on ne voit pas. Et l'autre manifestation de cette réorientation de l'intérieur, elle est plus perfide, c'est la suivante. Elle consiste à dire, dans chaque problème d'environnement, il existe une part de ce problème qui peut faire l'objet d'un traitement synergique ou d'une communauté d'intérêts entre logique agricole et logique environnementale, ou entre logique financière et logique environnementale. Pourquoi ne pas s'intéresser à cette part-là du problème? C'est ça la logique qu'on rencontre tous les jours au sein de la technostructure de recherche et d'enseignement supérieur agricole. Allons nous occuper de ce qui est synergique. Et lorsque l'interlocuteur environnemental dit, attendez, vous me parlez de la part de synergie, mais il y a aussi une part de divergence, une part distributive, une part qui n'est pas conciliable. À ce moment-là, lorsque la dissymétrie entre les piliers est trop forte, eh bien celui-là, on lui dit, mais c'est de la méchanceté. Pourquoi tu cherches le truc qui fâche? Pourquoi on irait au sein d'un organisme travailler sur des sujets qui fâchent alors qu'on pourrait à la place travailler sur des trucs qui ne fâchent pas? Donc, cette figure de la polarisation, je vous en donne quelques exemples qui seront très utiles. Le premier, c'est celui d'un chercheur de notre domaine qui travaille sur le problème suivant. Il fait des systèmes multi-agents et il travaille sur une rivière où le développement d'un périmètre irrigué s'est traduit par un prélèvement massif sur la rivière avec des problèmes environnementaux et des problèmes sur les filières tourisme, notamment pour le passage des kayaks. Donc il y a un conflit entre agriculteurs et environnementalistes et usagers autres du cours d'eau. Et le projet de recherche, c'était dans un colloque auquel tu devais être, à Montpellier, je crois, sur concertation, décision, environnement. Le projet de recherche prévoyait donc de faire une simulation multi-agent avec les acteurs de ce problème environnemental pour voir quelles étaient les marges de manœuvre. Donc ce chercheur nous présente le projet et il dit en fait on a réorienté un petit peu le projet. Pourquoi ? Parce que le projet initial c'était d'utiliser le SAGE et la commission locale du SAGE comme l'instance autour de laquelle avec laquelle on allait discuter sur ce problème d'eau. Mais il y a un truc qu'on n'avait pas vu. Les agriculteurs nous ont dit, l'élu territorial, je pense que c'est un conseiller général qui préside le SAGE, et vient du milieu associatif environnemental, donc il n'est pas neutre. Donc, on ne peut pas faire ça dans le cadre du SAGE. Et du coup, on a un petit peu réorienté le projet, on a fait la simulation multi-agent avec la profession agricole et les agriculteurs, comme ça, c'était plus neutre. Ah, vous rigolez, hein, mais bon, on va voir après, vous rigolerez moi. Donc, ça c'est mon premier exemple. On voit l'équation, elle est très simple. Si ça fâche, ça ne peut pas être neutre. Donc ça ne peut pas être vraiment scientifique. Donc la boussole de neutralité, c'est de ne pas fâcher. Quand on est dans un organisme agricole, à l'agro, à l'INRA, si on fâche l'agriculteur, on n'est pas neutre, on n'est pas scientifique. Si on fâche la filière, on n'est pas neutre, on n'est pas scientifique. Et c'est ce mécanisme, cette boussole profonde, dont l'exemple que je vous ai donné est frappant, mais anecdotique, personne n'a remarqué ce qui se passait. Cette équation-là est cruciale pour l'avenir de nos recherches et de nos enseignements. Autre exemple, tout aussi anecdotique. Une personnalité éminente de notre domaine arrive vers moi il y a il y a 15 jours, je crois, et je lui parle de Conservation Internationale, l'ONG environnementale sur laquelle Tiffaine et moi avons écrit un article, et sur laquelle Tiffaine a fait son mémoire de D1. Et cette personnalité me dit, Conservation Internationale, moi j'appelle ça Consternation Internationale. Tu sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté des droits d'exploitation forestière à des populations locales. Consternant. Et alors, il me dit ça, et ensuite, il se tourne vers moi de l'air de la personne qui attend qu'on se consterne de concert. Pour moi, je n'ai pas suffisamment d'informations. Ce qui fait la question du sens, c'est la suivante. Est-ce que tu as ou est-ce que tu n'as pas assez d'informations pour voir qui parle à qui, de quoi et de quoi ça parle ? Moi, ce qui m'a dit, que je vous ai intégralement cité, ne me suffit pas à me concerner et à donner un sens à ce qu'il me dit. Juste un exemple. Imaginons que Conservation Internationale ait acheté ses droits d'exploitation dans le cadre d'une mise en marché de ses droits d'exploitation au sujet de laquelle il était en concurrence avec une multinationale forestière qui avait un projet de couper la forêt. Pour moi, l'opération est positive, sans aucun doute possible. Elle est neutre du point de vue de la population locale, c'est pareil d'un côté ou de l'autre. Elle est incomparable du point de vue de l'environnement, du développement durable et de la biodiversité. Donc, l'information qu'il me donne n'a pas assez de sens. Allons un peu plus loin. Imaginons que cette mise en marché des droits d'exploitation par les populations locales ou des droits d'exploitation dont bénéficiaient jusqu'à les populations locales ait été faite parce que le reste de la forêt dans cette région a été concédé nationalement à une multinationale forestière. Ah bah oui, bah ça change encore. Pardon ? Ça arrive jamais. Ça change encore. Et donc là, on retombe sur un point clé, mais qu'on n'a pas encore vu sous cet angle du bouquin de Rowell. Rowell, il nous dit, voilà, aux États-Unis, dans la partie ouest des États-Unis, il y a des resource-based communities, des gens, par exemple, qui vivent que du bûcheronnage et du sciage. Et puis, il y a beaucoup de cas dans lesquels la seule forêt vraiment exploitable qui reste, c'est une réserve naturelle, et il y a le village de bûcherons. Et donc, le problème écologique, c'est un problème d'opposition entre une communauté locale et la protection de la nature. Rouelle dit, OK, voyons le problème. Voyons le problème. Il y a 2 ans, il y avait une scierie à cet endroit-là. Il y a 2 ans, la scierie a été délocalisée au Mexique. Ça a mis au chômage la moitié des types du village. Entre il y a 20 ans et il y a 5 ans, tout le reste de la forêt a été exploité sur un modèle d'exploitation dont il était clair dès le départ qui ne pouvait pas permettre une poursuite durable de l'exploitation dans les périmètres qui étaient mis en exploitation. Et Rowell conclut, alors c'est vrai que une fois que vous avez choisi un modèle d'exploitation forestière non durable pour les territoires qui sont exploités forestièrement, une fois que vous n'avez pas mis en œuvre de stratégie de développement local et de diversification pour le village, une fois que vous avez délocalisé la scierie au Mexique, alors vous pouvez nous présenter ça comme un problème d'opposition entre une population locale et le problème de la conservation de la nature. Et donc, il est toujours possible de recadrer un problème de telle manière qu'il apparaisse comme un problème d'arbitrage entre la pauvreté et la biodiversité. Là, on est au cœur du problème de la création du sens et de la polarisation. Or, ce constat de Rowell, il connecte de manière immédiate avec la question sectorielle. Qu'est-ce qui fait que cette personnalité dont j'ai parlé ne va pas aller chercher la chaîne d'événements qui conduit depuis une gestion non durable des forêts du pays jusqu'à la reformulation du problème comme conflictualité entre communautés locales et écologie. Eh bien, c'est que cette chaîne-là, c'est précisément la solidarité interne de la filière forestière ou de la filière agricole. Et donc, quand cette personnalité travaille au CIRAD, c'est l'organisme de recherche qui fédère les centres de recherche sur les filières d'intensification agricole ou de production forestière. Au fond, lui, il est le département argumentation tiers-mondiste contre la protection de la nature d'un organisme de recherche de la filière bois et de la filière d'intensification agricole. Donc, le problème du sens, il est complètement lié au problème de la fondation sectorielle de l'organisation de recherche elle-même. Je vais vous donner un exemple de dépolarisation qui montre ce qui pourrait se passer si s'enclenchait une dynamique d'échappement par rapport à cette polarisation qui atteint aujourd'hui des proportions extraordinaires. C'est le travail de Didier Busca qui a fait sa thèse avec Salles, et il a fait sa thèse sur l'application aux exploitations agricoles dans le sud-ouest du PMPOA, c'est-à-dire de ce plan très fortement financé qui permettait d'équiper avec des installations pour stocker les lisiers, les exploitations dans le but de diminuer leur pollution. Au départ, de stocker, mais de stocker dans l'optique de par exemple, de pouvoir faire des épandages en été au lieu de les faire dans des moments vulnérables. Au départ, la formulation de leur recherche était la suivante. Elle consistait à essayer de voir comment une politique publique qu'ils appelaient une injonction environnementale, formulée de manière carrée, bête et centrale, pouvait faire l'objet d'un apprentissage, d'une appropriation locale. Et leur optique, c'était de dire, c'est bien l'appropriation de la politique et sa redéfinition par rapport aux conditions locales qui est l'essence même d'une bonne politique d'environnement. Ils étaient exactement dans la polarisation des chercheurs de l'INRA, par exemple, et leur recherche ne pouvait pas se distinguer d'un projet de recherche de l'INRA. Le même projet, 4 ans après, présenté par les mêmes chercheurs, ils arrivent et ils nous disent, voilà, nous, on a étudié la manière dont la politique était mise en œuvre, et on a observé la chaîne de négociation depuis l'Assemblée nationale qui vote les crédits, le ministère, etc., jusqu'à la mise en œuvre dans les exploitations. Et on peut vous démontrer, sur ces dizaines de négociations, la manière dont la mise en œuvre de cette politique dans le territoire que nous avons étudié a été vidée entièrement de son contenu environnemental. Et donc, ils ont redéfini le problème comme celui de l'éco-opportunisme, c'est-à-dire comment un outil qui, dans le fonctionnement de la communauté politique, est une tentative de prise en charge d'un problème environnemental, est transformé de l'intérieur, on est bien dans les piliers du développement durable, en outil de modernisation des exploitations agricoles et en outil d'intensification de la concurrence entre les plus grosses qui se modernisent et les autres qui doivent disparaître. Donc, là, on voit des chercheurs qui sont partis pile dans l'orientation polaire partagée par la technostructure et qui ont dérivé pour dépolariser leur position. Juste une remarque qui n'est pas de détail. Denis Salle est chercheur au CNRS. Donc, il est un des rares chercheurs de notre domaine qui n'appartient pas à la technostructure agricole. Didier Busca est maître de conférence en sociologie à l'Université de Toulouse. Donc, au total, pour conclure sur cette deuxième chapitre, pour ainsi dire, on a bien un jeu d'intégration qui a ses côtés positifs, qui peut être fonctionnel, mais il peut aussi dysfonctionner. Et ça nous ramène au problème de l'impensée sectorielle dont il va falloir essayer d'examiner les manifestations dans l'organisation et la pratique de la recherche. Je voudrais juste faire une remarque, mais je ne vais pas vous donner là d'exemple, c'est que ici je vous présente ces modèles d'analyse, le rejet, la polarisation et l'englobement, pour organiser notre réflexion générale sur la technosphère agricole et environnementale. Ces concepts ils seraient utilisables aussi pour des analyses très très fines de traitement de dossiers agri-environnementaux, mais ça n'est pas dans mon programme aujourd'hui. Donc j'aurai des propositions à faire là-dessus pour montrer que ces clarifications théoriques elles permettent des meilleurs traitements de questions de terrain, mais ce n'est pas mon enjeu. Donc, maintenant, mon enjeu, c'est, à partir de cette clarification, on va revenir vers la production de recherche et la problématisation des problèmes de recherche par les chercheurs et les enseignants dans notre système supérieur. Le sens, là aussi je récapitule, est menacé sous deux aspects. Un premier aspect, c'est la dialectique environnementale. Donc là, je me suis beaucoup étendu là-dessus. Et donc, j'ai un autre exemple de la menace sur le sens. L'autre fois, j'ai participé à une réunion dans le cadre de la création du grand établissement où un des départements nous a présenté son projet et nous a dit, mais voilà, nous, on s'intéresse à la protection végétale. Donc, ce qu'on fait, c'est protéger le vivant. Et donc, dans les débouchés de ce qu'on fait, il y a la protection de la nature. Donc ça, c'est la perte de sens par perte des repères dialectiques dans lesquels l'espace de discussion se construit. Et puis, la deuxième perte de sens, elle résulte de la perte d'objet. C'est-à-dire de dire, attendez, pour parler d'environnement, de biodiversité par exemple, il ne faut pas rester au ras des pâquerettes, les petites fleurs et les petits oiseaux. Pour ça, j'ai abordé ça la dernière fois. Il faut poser les vrais problèmes. Et là, je tire aussi mon exemple de la conférence sur l'IMOCEP au début du mois. C'est le président ou le vice-président du futur panel d'experts qui arrive et qui dit « La biodiversité, le vrai problème, c'est qu'on n'a pas réussi à convaincre les gens. Si on était dans une analyse clinique, on dirait que c'est une véritable rétrojection. C'est l'inverse. C'est les gens qui veulent la biodiversité qui n'ont pas réussi à convaincre la technostructure. Mais restons-en là. La biodiversité, on n'a pas réussi à convaincre les gens. Pour convaincre les gens, ce qu'il faut, c'est qu'on soit plus concret. Il faut être beaucoup plus concret. Il faut arrêter de parler des fleurs, des animaux, des habitats. Il faut être plus concret. Il faut qu'ils comprennent que la biodiversité, c'est la vie, c'est le travail de l'homme. Voilà, ça c'est la perte de sens par perte d'objet. On ne sait plus de quoi on parle. On ne sait plus de quelle chose on parle. Alors, donc, il faut quand même réaliser que pour arriver à ne pas penser le caractère sectoriel et les intérêts sectoriels, les centres d'intérêt sectoriels qui sous-tendent leur activité, il faut bien comprendre que ça mobilise beaucoup d'énergie de la part des enseignants-chercheurs et des chercheurs de la technostructure. Et donc, il y a un véritable savoir-faire qui s'est développé, un savoir-faire de déni. Et c'est maintenant sur ces méthodes de déni qu'on va revenir. Je vais vous en proposer, là encore, on va en analyser trois, il y en a plein d'autres, on en a vu d'autres la dernière fois, on va en analyser trois. La première de ces méthodes de déni, elle consiste à reformuler le problème comme un problème d'interaction entre des savants et des profanes. Donc, le problème n'est pas que je suis un chercheur, un intellectuel organique de la filière agricole, et puis que les autres, ben, ils ne le sont pas. Le problème, c'est que je suis un savant d'un haut niveau académique, puisque je travaille à l'INRA, et donc que en face de moi, j'ai des profanes, et qu'il y a un problème de dialogue entre les savants et les profanes. Alors là, il y a toute une littérature dans ces dernières années. Je pense d'une part à des travaux produits par des chercheurs en sciences sociales de l'INRA, et d'autre part à l'ouvrage qui a fait un énorme succès de Calon, Lascoum et Barthes sur « Agir dans un monde incertain » et la démocratie technique. Aussi bien ces travaux de l'INRA que cet ouvrage mettent le projecteur entièrement sur un type de dispositif de dialogue, qui est celui de la conférence de citoyens, avec l'exemple de la conférence de citoyens sur les OGM. Donc la conférence de citoyens, elle consiste à dire « on n'arrive pas à s'entendre sur les OGM ». Cette mésentente, elle vient d'un décalage entre le savant et le profane. Donc on va inventer des nouvelles manières de discuter entre savants et profanes, des techniques. Les focus group, la conférence de consensus danoise qui est implantée en France devient conférence de citoyens. Mais ce qui est très important, c'est de garantir la neutralité. Pour que la discussion puisse aller de l'avant, ça ne sert à rien de mettre autour de la table des excités des associations de protection de la nature, des bornés du syndicalisme agricole et puis des chercheurs. Ce qu'il faut... c'est des citoyens dans leur virginité, des citoyens à la Rousseau, qui soient aptes, qui ne soient pas explicitement engagés dans la défense d'intérêts sectoriels, mais qui soient aptes à rentrer dans une véritable discussion. Donc on va créer un jury et on va trier des citoyens comme dans une procédure de jury américaine. On va les trier, ils vont être de sensibilités différentes, comme dans le jury du tribunal américain, par exemple issus du milieu agricole ou exploitants agricoles, ou commerçants, ou ceci ou cela, mais on va vérifier qu'ils ne sont pas engagés dans les structures ou qu'ils ne sont pas des porte-parole de structures. Ensuite, on va leur assurer une série de conférences où ils entendront des experts qui ont des perspectives différentes, leur expliquer le problème, et on va leur demander de faire un rapport de synthèse qui reflète une idée de citoyen ouvert et pluriel sur le problème. Alors, il faut lire les pages, aussi bien dans les rapports de recherche de l'INRA que dans le livre de Calon Lascoum-Barthes, où ces chercheurs relatent l'émotion qui les saisit en s'apercevant que des citoyens peuvent penser. C'est extraordinaire. Malheureusement, j'ai oublié de monter le bouquin avec mes notes. Ils sont émus en voyant que ces citoyens peuvent penser. Et ils sont émerveillés de voir que non seulement ils comprennent ce qu'on leur dit, et qu'ils ont des capacités. Alors, dit en langage INRA, c'est, en tout cas, il est établi que la difficulté ne provient pas des capacités cognitives des citoyens à discuter des problèmes complexes. Oh, on est rassuré, la technostructure reconnaît que les citoyens ont des capacités cognitives. Mon argument, c'est simplement qu'il y a quand même besoin de leur reconnaître aussi d'autres choses, quoi. Mais bon, déjà, c'est quelque chose. Et non seulement on reconnaît qu'ils sont capables de penser, mais en plus, ils pensent raisonnablement. C'est-à-dire qu'ils rendent comme conclusion que le problème est compliqué, que c'est idiot de rejeter la technologie, et que vraiment, ça vaut le coup de continuer à y penser et d'arrêter de faire chier. Donc, ils pensent et ils pensent bien. Ce qui est intéressant avec cette méthode pour moi, et c'est que, par ailleurs, ses écrits explicite également un rejet total de la mise en cause militante contre les propositions de la technosphère. Là aussi, il y a des phrases formidables dans Calon Lascoum-Barthes disant que jamais un mouvement social protestataire n'a conduit à créer un forum hybride viable et productif du point de vue de la démocratie technique. Pour moi, quand je lis ça, je suis stupéfait. Donc, l'intérêt du modèle, il est dit dans ces phrases, c'est bien de tenir en lisière les mouvements sociaux partisans. L'enjeu, c'est bien la neutralité. Le modèle de la recherche de plein air, c'est leur modèle, ce qui consiste à dire ce qu'il faut, c'est faire travailler ensemble les savants et les profanes. Alors, je me suis dit, mais ils sont trop modestes à l'INRA. Je suis sûr qu'ils en font déjà indépendamment de ces conférences de citoyens. Alors, par exemple, il y a un forum hybride à l'INRA qui se réunit 2-3 fois par an et dans lequel la direction de l'INRA, des chercheurs de l'INRA, discutent avec des représentants de la société civile, des représentants de syndicats, d'industries, etc., sur les recherches de l'INRA. Et ce forum hybride est assez intéressant aussi par rapport au forum de citoyens, en ce sens qu'il a un poids sur les orientations de recherche. Il a de vraies prérogatives pour les orientations de recherche de l'INRA. Vous aurez tous deviné que je veux parler du conseil d'administration de l'INRA. Donc, le conseil d'administration qui a pouvoir sur les orientations de recherche de l'INRA, c'est bien un forum hybride dans lequel il y a moitié de représentants de la société civile, il y a un tiers en gros de représentants de la société civile, un tiers de représentants des administrations et un tiers de chercheurs et représentants des personnels INRA. Donc il y a bien un forum hybride qui est au cœur du système. On est bien dans la recherche de plein air. Si on regarde la composition de ce forum, on s'aperçoit que la totalité des membres de la société civile représente la filière agricole, du syndicalisme agricole à l'agroalimentaire, aux firmes semencières. Le seul qui ne relève pas de l'industrie agricole ou agroalimentaire, c'est le représentant de l'association de consommateurs. C'est vrai que c'était difficile de ne pas en avoir un dans le système. Du point de vue des administrations, on a essentiellement l'administration de l'agriculture, on a une personne du ministère de la Santé, et puis pour le ministère chargé de l'Environnement, on a le directeur de la recherche, ou le chef de service du service de la recherche. Et quand on regarde, bon, les chercheurs, ça, c'est leur problème, ben, ils sont plutôt orientés agricoles, c'est pas hyper étonnant. Donc, il y a bien un forum hybride, mais c'est un forum hybride intrasectoriel. Et quand on regarde le travail de l'INRA, une des grandes forces de l'INRA depuis 40 ans, c'est qu'à tous les niveaux de travail scientifique et de décision, l'INRA associe de très près la société civile. Toutes les recherches qui reposent sur des essais au champ, les tours de champ, etc., l'INRA est en osmose avec la société civile, avec l'agriculteur individuel, avec les représentants des structures professionnelles. Il n'y a pas de problème de communication avec la société civile. Et donc, la conclusion, pour moi, est absolument claire. L'INRA, le problème n'est pas un problème de communication entre savants et profanes. C'est que la communication est totale et immédiate entre tous les parties prenantes, savants et ou profanes, à l'intérieur du secteur agricole, mais que dès qu'il s'agit de parler avec quiconque en dehors du secteur agricole, là, on est sur un problème infernal. Donc, la conférence de citoyens sur les OGM, c'est une tentative inouïe à mes yeux de se raconter à soi-même qu'on a un problème de communication entre le monde savant et le monde profane, de faire un véritable virage tournant à 90 degrés, dans lequel ce qui est en fait un conflit, une cloison intersectorielle entre les intérêts technico-scientifiques du secteur agricole et le reste de la société, ça, on le transforme en une question procédurale de mise en relation entre le monde savant et le monde profane. C'est l'impensé complet de cette opération, le fait que les auteurs qui ont écrit ça ne voient pas le retournement qu'ils font et la manière dont ils se racinent dans leur propre adhésion ou participation au secteur, pour moi, est extraordinaire. Vous avez rigolé tout à l'heure quand je vous ai raconté l'histoire du chercheur qui va faire son exercice uniquement avec les agriculteurs parce que c'est plus neutre. Il n'y a pas de différence structurelle. Le schéma est le même entre les travaux sur la démocratie technique qui nous vantent la conférence de citoyens et la neutralité recherchée par l'absence de conflictualité vis-à-vis des agriculteurs. Dans le cadre de la gestion du bassin versant, il n'y a pas de différence, la logique est la même. Et donc, on est bien au cœur de l'impensé sectoriel. Je voudrais, sur ce point, conclure en disant que moi, je n'ai pas de problème. Au fond, l'INRA a un leitmotiv depuis 30 ans qui s'appelle la demande sociale. Donc, les chercheurs de l'INRA, ils se disent, il faut qu'on soit en prise avec la demande sociale. Et alors, ils élaborent toujours plus la demande sociale. Leur dernière génération, donc ce que je vous ai raconté, c'est la dernière génération de prise en charge de la demande sociale, les conférences de citoyens. Osons une définition de la demande sociale, c'est tout simple. C'est le décalage entre la technostructure et la société. Ou plus exactement, c'est la manifestation subjective pour la technostructure de son décalage avec la société. Moi, dans ma pratique de recherche, je n'ai pas de problème de demande sociale. Moi, je suis plongé dans la société. De la même manière, les chercheurs de l'INRA, ils sont plongés dans la société, ils sont plongés dans l'agriculture. La notion même de demande sociale est une notion issue du déni. Elle est le symptôme qui vient à la place du creux qui résulte du déni de sa propre implication dans la société. Et du coup, j'anticipe un peu sur les conclusions pratiques. Une institution universitaire, c'est une institution dans laquelle travaillent des gens dont les implications sociales sont multiples, couvrent toute la société. Des maîtres de conf, des professeurs, des étudiants, il y en a qui viennent de partout. Alors il y a peut-être des déséquilibres sociologiques, etc., c'est certain. Mais en tout cas, il n'y a pas la seule traduction qui est en cause, c'est comment leur être social réfléchissant investit dans des mises en forme scientifiques et académiques et dans des discussions scientifiques et académiques. Mais la sectorialisation de la technostructure française nous éloigne complètement de ce modèle parce qu'elle définit au départ quel est le petit bout de la société, dans notre cas la filière agroalimentaire, avec lequel se fait la totalité de l'osmose entre société et recherche. Et du coup, il reste un immense problème. C'est comment on discute avec le reste de la société. Et le symptôme de la demande sociale à l'INRA, c'est l'expression de ce déni. L'expression retournée, évidemment, de ce déni. Deuxième technique, alors celle-là, elle est plus familière à ceux qui suivent nos travaux. Pour ne pas penser l'orientation sectorielle, j'ai déjà fait allusion, c'est de prendre comme référence l'accord. Au fond, si on travaille, si on fait des recherches, c'est pour trouver des solutions sur lesquelles on soit tous d'accord. Et donc, prenons ça comme référence. Alors j'irai beaucoup plus vite. Vous connaissez mes travaux sur l'institution patrimoniale du Haut-Béarn, qui est une sorte de microcosme, où j'essaie de montrer que le modèle qui prévaut aujourd'hui, de ce point de vue-là, c'est le fait d'instituer une mise en minorité structurelle de l'acteur environnemental. Et dans notre domaine de recherche, c'est très simple. Ça veut dire que dans des organismes agricoles, on va mettre quelques personnes qui s'occupent d'environnement. Ou dans des départements de production végétale, on va mettre quelques personnes qui s'occupent d'environnement et puis on va réappeler ça gestion patrimoniale et environnement, par exemple. Deuxième, donc ça, c'est la base. Pour que ça tienne, il faut délégitimer le dissensus parce qu'il y a quand même des gens qui disent « Attendez, c'est quand même un pâté de cheval et d'alouette. » Donc, il faut dire « Attendez, c'est quand même très important qu'on tombe tous d'accord. Il y a des emmerdeurs qui gueulent tout le temps, mais ceux-là, il faut les laisser à leur conneries, et donc on est bien dans le tarissement de la production de sens qu'on a vu plus haut. Alors, les exemples, on les connaît, c'est la floraison des approches patrimoniales et néopatrimoniales et la place hégémonique presque qu'elles occupent. Ce qui me fascine, c'est de voir que de GVSP à l'agro, à Beuret, à l'ENSAR de Rennes, à Babin-Weber-Antonin au CIRAD, la même logique qui consiste à dire « je veux chercher des solutions sur lesquelles tout le monde est d'accord », logique explicite, « je porte les intérêts du secteur agricole », logique immanente, conduit à définir les mêmes cadres conceptuels et les mêmes procédures de travail. Dans le nouveau livre de Beuret sur la concertation, pas une seule fois les auteurs de la gestion patrimoniale ne sont cités, je crois, mais l'axiomatique est la même, les conséquences qu'il en tire sont les mêmes, les procédures de travail et les effets pragmatiques visés sont les mêmes. Donc, en fait, où est le loup là-dedans, dans ce dossier de l'ours et dans tous ces problèmes? Eh bien, c'est très simple. C'est que dans un dispositif de recherche du consensus, le consensus, c'est tout le monde d'accord. Mais la question qui est décisive, c'est de savoir qui a un droit de veto de fait. Il n'a pas besoin d'être dit dans l'approche formalisée. La question est de savoir qui a le droit de veto de fait. Et donc, quand on observe la mise en œuvre, mais aussi les fondements théoriques de ces approches patrimoniales, on s'aperçoit que ces approches patrimoniales fonctionnent en prise avec une pratique non dite qui est l'exercice du droit de veto de fait du secteur agricole. Troisième orientation, là aussi j'irai un peu plus vite, comment ne pas penser l'orientation sectorielle ? C'est de redéfinir le problème comme étant non pas un problème substantiel, un problème de petites fleurs et de petits oiseaux par exemple, mais un problème procédural et délibératif. Alors vous croyez peut-être que j'exagère, mais voilà une phrase prise dans Caron Lascombart. Voilà démontré que ce qui compte, ce sont les procédures, les seules procédures, les règles d'organisation de ces débats et discussions. En fait, je passerai vite parce que je me suis exprimé longuement dans Reste Zéro là-dessus. On est arrivé au bout d'un combat de 25 ans. En 1980, la plupart des chercheurs qui dominent aujourd'hui dans les sciences sociales françaises étaient engagés dans un combat homérique contre la technocratie. Comment faire pour qu'on ne nous dicte pas des politiques au nom de la science ? Et ce combat a reposé sur l'idée de dire ce qu'il faut, c'est comprendre l'importance du procédural et arrêter de croire que c'est l'analyse substantielle des problèmes qui dicte les solutions. Mais, et cette phrase le montre, le balancier est allé trop loin parce que la mise en avant du procédural devient prétexte ou levier pour refouler les revendications substantielles. Je ne veux pas entendre ce que vous voulez de l'eau, des fleurs, des oiseaux. Je ne veux pas entendre. Je ne veux discuter avec vous que des formes de notre discussion. Là, on est dans un autre symptôme très, très prégnant aujourd'hui dans notre champ, aussi bien en enseignement qu'en recherche, du déni. Or, là aussi, le loup est facile à voir. Si vous avez une maîtrise concrète de ce qui se passe à l'amont de la discussion, c'est-à-dire si vous êtes capable de faire en sorte que 90% de ce qui s'écrit, se dit ou se pense soit aligné sur vos positions sectorielles. Et si vous avez en même temps la maîtrise sur la manière dont les choses sont mises en œuvre, parce que vous tenez les leviers de l'action administrative. Dans ce cas-là, c'est vrai que vous n'avez pas de gros risques à avoir une approche procédurale de la discussion. Vous ouvrez la discussion, vous avez mis en minorité de manière structurelle ceux qui ne sont pas d'accord. Vous avez disqualifié ceux qui gueulent parce qu'ils ne sont pas dans le système. La maîtrise sectorielle du système reste totale. Et le point clé, il est dans le fait que ce qui a changé depuis 1980, c'est que les opérateurs ont compris que c'était contre-productif de chercher à avoir une maîtrise totale des idées. Il suffit d'avoir une maîtrise d'ensemble du courant des idées. C'est parfait d'avoir un prof d'environnement qui parle, qui défend des choses sur l'environnement, etc. C'est parfait d'avoir dans une administration, toute administration a ses fous de roi, des gens qui disent « mais il faut pas du tout être bureaucratique, il faut être complètement pragmatique, discuter tout le temps ». Le problème n'est pas du tout la maîtrise totale. Et les modèles organisationnels qui permettent une forme d'échappement et qui reposent sur une dissociation de la parole et de l'action ont fait montre de leur efficacité. Le problème, c'est que lorsqu'on est dans l'industrie du cognitif, c'est-à-dire l'enseignement et la recherche, la dissociation de la parole et de l'action, c'est effrayant, c'est la perte de sens. C'est le fait que ce qu'on fait, le travail même qu'on fait, se déréalise et perd contact avec les gens et avec les choses. Alors, le répertoire des techniques qu'on peut utiliser pour ne pas savoir, il est sans limite. Je vous renvoie à la conférence dernière sur l'argumentation soi-disant humaniste de l'agrocentrisme, sur le discours localiste qui fait dire l'environnement, c'est une revendication de gens du Nord, de gens des villes, de machin, l'urbain, le rural. Là, je vous renvoie à la fois à la conférence précédente et puis au papier écrit avec Farid Benhamou sur les réactions contre l'ours, mais qui est pris comme modèle d'un phénomène beaucoup plus général, et aussi à celui que j'ai écrit sur les faux dilemmes, homme ou nature, local ou central, faux problème et vrai rapport de force. Donc, on ne va pas revenir là-dessus, mais tout ça, il faut être capable de le penser si on veut trouver son chemin dans le maquis de la perte de sens dans les discussions sur notre domaine d'enseignement et de recherche. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour les chercheurs et les professeurs que nous sommes ? Comment analyser ces conséquences ? J'en suis pas encore à la partie d'application pratique, mais à l'analyse des manifestations de ça. Bon, d'abord, il faut revenir, encore une fois, tout le monde le sait, ça fait chier tout le monde, mais il faut revenir sur les formes concrètes de ce que c'est que l'enseignement et la recherche sur l'agriculture et l'environnement. Donc, on est bien dans un domaine où les organismes de recherche agricoles, les établissements d'enseignement supérieur agricoles maîtrisent la quasi-totalité des fonds, des flux, du pouvoir institutionnel et des personnes. Juste un exemple concret, par exemple. Le gouvernement, pour essayer d'échapper à la tyrannie des organismes de recherche, crée une agence nationale de la recherche. Et puis, il va essayer de répondre à la clameur des citoyens qui demandent de la biodiversité. Donc, il crée un appel d'offres biodiversité. Pour gérer l'appel d'offres, et puis il met des millions de francs, des millions d'euros, genre 7 millions d'euros, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus que tout ce qui a été jamais mis dans des appels d'offres incitatifs sur ce thème. Puis ensuite, il faut l'organiser. Donc, pour l'organiser, il embauche quelqu'un de très bon et de très haut niveau qui vient du CIRAT, c'est-à-dire le Centre de recherche d'intensification de la production agricole et forestière dans les tropiques, qui a 25 ans d'expérience, c'est un économiste qui a 25 ans de travail sur les projets de développement. Donc lui, il va administrer le fonds depuis le financeur. Et puis ensuite, comme appui technique pour dépenser les fonds sur la biodiversité, il va utiliser un institut qui fédère les principaux organismes français de recherche agricole, quelques autres minoritaires avec, mais surtout les fameuses organisations de la technostructure agricole, institut qui est dirigé par un des maîtres à penser du mouvement anti-environnemental français. Et donc, voilà, c'est la technostructure qui se manifeste concrètement la gestion des crédits de recherche. Je passe très vite sur un thème qui est très important, qui est celui de la polarisation intrasectorielle. C'est-à-dire qu'on peut, si on regarde, montrer que le déséquilibre qui existe entre le secteur agricole et le reste, se reproduit en déséquilibre interne au secteur agricole, c'est-à-dire que la technostructure agricole ne reproduit pas du tout de manière représentative la pluralité interne des sensibilités, des intérêts, des groupes, des modes de travail. Mais je laisse ça à d'autres, et notamment il y a un article remarquable de Jean-Vincent qui est paru dans la revue Pour récemment et qui montre comment ça fonctionne. Donc il y a bien une domination dans la programmation de la recherche au sens organisationnel. Maintenant, revenons au point clé qui est plus important pour nous sur le plan théorique, qui est de voir comment la sectorialité s'imprime dans le imprime, je le prends délibérément comme le réciproque de exprime. Les recherches expriment en fait des intérêts sectoriels et les intérêts sectoriels impriment dans le noyau dur programmatique des recherches. La notion de programme, je la reprends ici du livre de Berthelot sur les sciences sociales. Qui montre qu'une démarche en sciences sociales, elle suit un programme, c'est-à-dire le dépliement d'un noyau dur logique posé au départ qui tait certaines choses et qui en formule d'autres et qui donc crée une pensée mais en même temps un impensé. Berthelot insiste surtout là-dessus. Son texte est très intéressant. J'ajouterais qu'il ne faut pas non plus laisser de côté le point clé, c'est que ce dépliement d'un programme logique. Pas du tout. Voyez, on est dans les locaux de la technostructure. Donc, c'est que ce programme conceptuel, il est porté par des gens, des structures, et donc que le programme est aussi un programme au sens politique du terme. Un programme qui déploie une logique organisationnelle, c'est en fait un programme d'action collective cognitive. Pour moi, les théories, il faut les penser comme des actions collectives cognitives ou des actions individuelles cognitives d'ailleurs, mais le travail théorique qui est nôtre, il est forcément collectif parce que c'est un travail organisé, et donc il faut le penser comme une action collective cognitive. Deux exemples qui vous montrent que les intérêts du secteur agricole sont inscrits dans la matrice même des problématiques de recherche dans notre champ. Le premier, c'est le projet Aménité du CEMAGREF, avec des chercheurs qui sont très proches, j'ai pu en discuter avec eux de manière très ouverte et libre. L'idée est la suivante, elle est de dire ce qu'on veut, c'est voir et étudier la manière dont les systèmes d'exploitation agricole produisent des biens paysagers et environnementaux. Par exemple, comment des systèmes d'élevage dans le Massif central empêchent que se produise une fermeture des paysages qui n'est pas bonne pour la biodiversité et pour les paysages. Et donc, le CEMAGREF a 15, allez, on va dire 15 personnes qui travaillent là-dessus, projet aménité. Et leur motivation, ils l'ont dit clairement au départ, c'est comment on continue à justifier le fait de donner des crédits publics pour soutenir l'agriculture. Donc on discute avec eux, on dit OK, c'est les externalités positives de l'agriculture. Alors où est-ce qu'on travaille sur les externalités négatives de l'agriculture? Comment les options prises en matière de système de production agricole détruisent la valeur environnementale? Elle dit, ah bon, non, 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 c'est pas intéressant. On dit, mais c'est quand même un problème parce que la gestion des valeurs paysagères et environnementales, de l'état environnemental, elle résulte d'un bilan. Elle résulte d'un bilan entre la destruction et la production, entre la production de ceci, la destruction de cela, la production d'autres choses. Donc, si on veut pouvoir répondre à la question, ah ben non, c'est pas nous. C'est pas nous. Alors, là, on pose la question, mais c'est qui? Ben, c'est pas notre problème. Nous, on est une organisation, c'est Magref. Donc, nous, on prend un problème, celui-là. La réponse est claire. L'autre volet, c'est personne. Donc, alors si, c'est quelques travaux minoritaires, etc., mais il y en a très peu. Donc, on voit bien que la formulation même, le concept d'aménité, qui sont allés chercher, les théories économiques qui vont derrière, etc., sont orientés, structurés par le point de vue sectoriel. Donc, je vous renvoie aussi à un travail qu'on a fait avec Xavier, qui allait interroger la manière dont les chercheurs de notre domaine posent le problème de la biodiversité, rapport qui montre qu'en fait, 9 sur 10 des questions de biodiversité liées à l'agriculture ne sont pas traitées. Les seules qui sont traitées, c'est les questions de biodiversité qui peuvent abonder un argumentaire en faveur du financement de l'agriculture. Donc, la programmatique même, la manière même de formuler, de poser et de discuter les problèmes est à la base, comme dans le complexe de Freud et de Jung, construite et cachée à la fois, structurée par cette impensée sectorielle. Donc, avec l'exemple de notre chercheur qui trouve que c'est plus neutre parce qu'on est avec des agriculteurs, on voit que c'est aussi toute la pratique quotidienne de recherche qui fait ces micro-choix en étant portée par ses intérêts sectoriels. Il faut aussi mentionner qu'il y a des chercheurs dont le boulot consiste en grande partie à brouiller le regard environnemental. Au fond, ils sont dans une optique critique qui est légitime. C'est la critique de la revendication environnementale par les chercheurs sectoriels agricoles. Alors là, on est dans le travail de la déconstruction de la demande environnementale ou de l'expression environnementale. Alors, par exemple, l'ARER a écrit toutes sortes de textes ces dernières années pour dire il faut absolument sortir d'une formulation des problèmes de biodiversité et d'environnement en termes d'espaces, d'espèces remarquables. On n'a pas assez pris en compte la nature ordinaire. Puis à côté de lui, vous prenez Christian Devert dans une des séances du séminaire CDE qui nous a expliqué que la nature ordinaire, c'était un coup de force symbolique. C'était un concept qui constituait une violence envers le monde rural, puisque penser que les espaces ordinaires puissent être des espaces naturels, c'est déjà les coloniser d'un point de vue écologique. Naturel. Il n'y a pas de naturel. Vous lisez les écrits de Micou. Sur, en gros, les espèces protégées comme des animaux empaillés vivants, on vous explique que du naturel, il n'y en a pas, et Micou n'est de loin pas le seul. Et puis, les processus dommageables qui sont le fruit de la construction intellectuelle des chercheurs du secteur environnemental, rarissime en France, comme l'analyse de la déforestation, de la destruction des zones humides, etc., est critiquée par des chercheurs qui nous disent, ben voilà, la déforestation, quelle déforestation? Ça renvoie à une discussion qu'on a eue l'autre fois à la plateforme Environnement. Ça renvoie à un article de Geneviève Michon et al. Le problème, et donc j'ai pris ces exemples pour vous montrer que ces travaux critiques visent la constitution même du sens dans la série environnementale. Pour empêcher le sens d'être constitué dans une série, il faut supprimer les points remarquables. Il faut ensuite éradiquer tout ce qui se présente comme ordinaire en disant qu'en fait, il relève d'une autre série, puisqu'il n'y a plus de points de repère. Il faut priver de sens les mots, les répertoires, les mots, les objets, et montrer que les répertoires pourraient tout aussi bien être organisés autrement, et donc qu'ils n'ont plus de légitimité. Le problème, encore une fois, n'est pas qu'il existe une littérature critique sur le domaine environnemental, c'est qu'il n'existe pas de littérature critique sur le domaine agricole. C'est-à-dire que quand on voit la dissymétrie des relations, l'ampleur des impacts négatifs du développement agricole sur l'environnement, et qu'on s'aperçoit que les seuls travaux qui existent sont des travaux qui critiquent les revendications environnementales, où sont les travaux qui nous déconstruiraient la problématisation agro-tiers-mondiste, etc., vue d'un point de vue environnemental? Où sont les... Ils n'existent pas. Mais ils n'existent pas parce que pour qu'il y ait des travaux, il faut qu'il y ait des chercheurs, il faut qu'il y ait des profs, et il faut qu'il y ait des gens pour les payer, il faut qu'il y ait des gens pour poser les questions. Ce n'est pas que les questions ne se posent pas, ou qu'on ne les ait pas vues. C'est pour ça que l'article qu'on a fait avec Farid Benhamou sur la résistance au mouvement de à la protection de l'ours, on l'a pas fait à cause de la protection de l'ours. On a fait pour montrer que lorsque il y a 40 articles qui sont publiés pour expliquer quelle est l'origine stratégique et sociale des actions en faveur de l'environnement, il y a zéro article pour étudier clairement qui agit contre l'environnement. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les chercheurs augmentent leurs problématiques. Et là, on revient sur la question de l'analyse institutionnelle. Encore une fois, l'article de Jean-Vincent Dampour, il parle de prise de risque. Il nous montre qu'au sein de la technostructure, ceux qui choisissent de travailler sur des problématiques agricoles minoritaires au sein de la technostructure sont pénalisés, qui prennent un risque. C'est encore plus vrai, évidemment, pour ceux qui sont pris dans l'interface entre la technostructure et d'autres secteurs. Je passe très vite pour dire que, en fait, on s'aperçoit que depuis 2-3 ans, le thème de la réflexivité des chercheurs sur leurs pratiques est en train d'émerger comme un thème majeur, mais pris toujours de manière très timide. Par exemple, un des exemples moi, que je trouve merveilleux, c'est une chercheuse qui est très bonne d'un des organismes, qui a travaillé sur les grands prédateurs, et elle a un passage dans son texte où elle dit « Vers quoi j'incline dans cette cause? Où est mon biais? Où est mon truc ?» Et alors, elle s'interroge sur ce qu'elle ressent. Elle se dit « Ah, mais peut-être que je sens ça quand même, parce que mon grand-père, il était agriculteur, donc peut-être que je ressens quelque chose qui n'est pas totalement neutre. » C'est extraordinaire. C'est une des manifestations les plus claires de la schizodoxie, quoi. C'est vous en êtes à vous demander ce que vous sentez. C'est simplement que vous n'êtes pas en contact avec votre immanence et avec ce à quoi vous participez. Et donc, c'est extraordinaire. On est dans une... Et ça, même chez des chercheurs très réflexifs, très fins, dont les travaux sont excellents. Donc, il y a un véritable chantier à avoir. Les mécanismes sont nombreux. Il y a le contrôle à l'embauche. Imaginez 3-4 figures des étudiants de l'INAPG qui se présenteraient pour rentrer à l'école du greffe. Il y en a un, c'est un agricole pur et dur. Son enjeu, c'est améliorer les filières agro-industrielles à base de matière maïs et participer au développement industriel et agricole de la France. Il y en a un deuxième qui est intéressé uniquement par la protection de la nature. Lui, ce qu'il veut, c'est les écosystèmes, les fleurs, les oiseaux, les grands singes. Et puis, il y en a un troisième qui veut un peu des deux. Là, c'est un peu pince-mi et pince-moi sont dans un bateau. On fait passer ces gens-là à travers le concours de l'ENGREF. Bah, celui qui ne voit que l'environnement, il ne sera pas pris. Celui qui voit la technique, l'économie, l'agriculture, il sera pris. Celui qui a une vision modérée environnementale en disant « oui, je vois bien les deux côtés », il sera pris aussi. En fait, on a une métaphore de l'ensemble de la logique de la technostructure. Vous avez une chaîne stéréo, vous voulez un truc, vous voulez une stéréophonie équilibrée, mais le haut-parleur de droite, pour vous, est inaudible. Donc, votre paradigme, il est super simple. Il dit « on va équilibrer en mettant un haut-parleur central et le haut-parleur de gauche ». Ah, c'est vrai, ça améliore par rapport à la situation où vous avez juste le haut-parleur de gauche qui marche. Le problème, c'est que c'est encore un peu déséquilibré. C'est déséquilibré, donc il faut faire un truc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le haut-parleur central, on va le mettre au centre. Ben oui, c'est logique. Et puis, c'est mieux, mais il y a quand même un problème. Et puis, en fait, on est dans une forme de dérive structurelle que j'observe depuis 25 ans, dans laquelle le secteur agricole, depuis la recherche jusqu'à la pratique, se déclare médiateur. Et donc, il est à la fois partie prenante et médiateur. Et donc, on est dans une forme de dérive fatale, structurelle, qui nous renvoie vers le point de vue sectoriel, un ressort de rappel institué. Bon, il y a la maîtrise des programmes, Il y a tous les aspects de travail collectif, de promotion, de possibilité d'organiser le travail, etc. Il y a le poids de la formation initiale. Quand je discute avec des étudiants qui ont fait l'INAPG et qui, au départ, étaient très protection de la nature et qui m'expliquent le reformatage et la violence de la pression qui a été exercée sur eux pour qu'ils abandonnent cette posture parce qu'elle est inhumaine et anti-humaniste, j'ai quand même eu des discussions assez intéressantes de ce point de vue-là. Il y a évidemment la légitimité propre des luttes sociales, agricoles et tiers-mondistes. Ça me paraît un point clé. En tout cas, il y a besoin urgent d'une analyse institutionnelle. Je renvoie à certains des points acquis du séminaire là-dessus, qui distinguent nos propositions par rapport à certaines autres dans le monde de la réflexivité des chercheurs. Pour nous, il n'y a pas d'un côté la recherche-intervention et de l'autre côté des recherches autres. Il n'y a pas de recherche non-intervention, point, barre. Il n'y a pas de chercheur dégagé. Vous vous rappelez du sketch de Desproges? Il y a le chanteur engagé, puis le chanteur dégagé. Non. Donc, il y a seulement des chercheurs qui assument plus ou moins les implications et les alliances que leur travail implique. La lourdeur de la phrase est intentionnelle. Refuser, et donc... Pardon? Justement. Mais c'est peut-être qu'on ne peut pas tout faire avec PowerPoint, en fait. Et il y a un petit fil conducteur tout simple qui est de refuser de mesurer la rigueur épistémologique au degré de scepticisme environnemental. J'avais suscité une forme de perplexité lorsque, dans le colloque organisé par Farid à Orléans-sur-l'Ours, j'avais ironisé en disant « Eh oui, sur les dossiers d'ours et de loup, il y a des chercheurs qui sont pas favorables à l'ours et au loup, donc neutres. Être favorable à l'ours, c'est être engagé. Ne pas être favorable à l'ours, c'est être neutre. » Bon, on reviendra sur ces choses-là. Et donc, maintenant, je vais venir aux conséquences qu'on peut tirer de ce que j'ai dit. Alors, d'abord, je vais essayer de me rassurer parce que on est parti dans des analyses qui viennent de mon propre désir de comprendre et de dire... Je vous avais cité la dernière fois la citation de Lacan, l'analyste ne peut se réclamer que de son propre désir. Mais du coup, ça crée quand même un désir compulsif de vérifier qu'il y a des gens que ça peut intéresser. C'est un peu pour ça qu'on est là aussi. Donc, en essayant de me rassurer, j'ai trouvé le texte suivant. C'est un texte de programmatique. Le fonctionnement des institutions mérite d'être étudié au vu de l'écart qui existe aujourd'hui entre le contenu littéral du discours scientifico-politique sur le développement durable et les actions engagées en son nom. Dans ce cadre, il serait souhaitable de mieux comprendre la nature et les causes des inerties auxquelles se heurte la réforme des institutions et règles organisant l'activité agricole. Alors, je voulais faire un quiz aussi pour alléger l'ambiance après toutes ces choses que je vous ai dites. Et donc, je voulais vous proposer comme quiz d'où vient cette phrase. Mais c'est trop facile, ça. Vous avez déjà tous deviné que ça vient de l'appel d'offres agriculture et développement durable de l'INRA. Donc, ce quiz-là était trop facile. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, mon vrai quiz, il est là. Donc, cette question, vous avez 5 possibilités pour comprendre ce qu'elle veut dire. 1. Enfonce mes portes ouvertes. On n'a rien à cacher, tout est clair. 2. Pousse mes portes vitrées. Ben oui, on est prêt à discuter. 3. Il y a urgence, casse la vitre avec le marteau. 4. Cause toujours, l'hygiaphone est en panne. L'hygiaphone, par exemple, c'est la conférence de citoyens. Pour moi, c'est un hygiaphone, c'est-à-dire qu'il y a un guichet blindé. Il faut quand même arriver à discuter à travers le guichet blindé. Donc, il faut inventer un hygiaphone. Donc, il y a toute une équipe de l'INRA et puis les gens de la démocratie technique. Leur problème, c'est l'hygiaphone. Alors, ça crache dans l'hygiaphone. Puis, on les voit qui s'agitent autour, mais ils font chier. Ça sert absolument à rien. Ce qu'il faut, c'est faire marcher mieux l'hygiaphone. Et dernière réponse, bienvenue dans mon labyrinthe de verre. À toi de deviner où sont les portes, où sont les vitres blindées et où sont les trucs à casser. Bon, donc ça, c'était le quiz. Vous avez une réponse? Après, je me suis dit, il faut quand même faire un truc utile pour les gens qui me payent. Donc, je me suis dit, ça peut-être être utile pour le débat en cours sur l'organisation des départements d'enseignement et de recherche au sein de l'INSIV. Je vous rappelle que l'INSIV, c'est le futur grand établissement, Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement, en abrégé AGRO. AgroParisTech. Le problème, c'est que là, je suis pris en flagrant délit, comme l'étudiant qui a un problème de maths, vous savez, de ces problèmes de maths gigognes, dans lesquels on vous pose d'abord une question sous une forme abstraite et générale, dans l'espoir que ça vous permettra de deviner les applications géométriques ou calculatoires qu'on peut en faire. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas réussi à résoudre le quiz, et donc, je suis sec devant l'examinateur en chef, face à la question. Alors, je vais essayer de me rassurer en me disant que si j'ai pas réussi à fabriquer des réponses, au moins j'ai réussi à clarifier certaines questions et que c'est ça mon boulot. Alors déjà, ça permet de mieux comprendre un certain nombre d'éléments dans les discussions autour de l'organisation du SUP agricole. D'abord, je pense que ça permet de mieux comprendre la situation des étudiants qui veulent se former à porter des questions et des projets environnementaux. Moi, j'entends dire partout, les étudiants ont une demande d'environnement. Qu'est-ce qu'on va leur faire? Ils ont une demande d'environnement, donc il faut rebaptiser environnement le département de production végétale. C'est ça l'axe central de discussion actuelle. Mais les étudiants, quand ils demandent de l'environnement, c'est pas qu'ils demandent qu'on écrive environnement sur le département de production végétale. C'est que ils sont dans la société, eux, ils n'ont pas de problème de demande sociale. Les étudiants, ils sont dans la société. On les a pas encore cueillis, ils sont comme des carottes en train de pousser. Donc, eux, ils savent ce qu'il faut. Il faut porter les questions et les projets environnementaux. Ils sentent un appel vers ça. Et puis alors, ils disent, voilà, on veut de l'environnement. Et puis alors, à l'autre bout du fil, il y a les professeurs. Et eux, ils veulent enseigner des réponses. Et puis ils ont aussi des objections au nom du secteur agricole. Donc, le dialogue, c'est on veut de l'environnement, et puis à l'autre bout, c'est venez au département environnement. Alors, par exemple, les étudiants disent nous, ce qu'on veut, c'est de la nature et de la société. On veut que les hommes discutent localement ensemble sur la nature. Allez au département forêt, nature, société. Et puis après, ils vont au département forêt, nature, société, et puis ils vont pouvoir faire beaucoup de sylviculture, et un peu de sociologie, et un peu d'écologie. Donc, il y a une espèce de problème dans la ligne. Si on n'était pas dans le cadre où nous sommes, je vous raconterais le meilleur paradigme de cette question, c'est la blague des coureurs de rallye et du serpent que raconte Xavier Poux. Elle est totalement illustrée. Vous voyez, ceux qui la connaissent ont tout de suite compris. Et ils font bien le lien entre l'humour et la capacité d'abstraction comme étant des faces de la même chose. Donc, en tout cas, à la suite de cette discussion, on voit bien les forces institutionnelles, organisationnelles, humaines, idéales, qui permettent d'éviter de monter des enseignements et des recherches sur l'environnement, qui dépassent un certain niveau d'ambition, de cohérence et de lisibilité. Le problème, c'est pas qu'on ne fait rien. C'est que on reste en dessous d'un plafond de verre de cohérence, de visibilité. Tout simplement, le plafond de verre qui ferait que, au lieu d'avoir une cruche en terre d'environnement plus ou moins cassée dans la cruche en fer du secteur agricole, eh ben, on aurait deux cruches en fer, l'une de l'environnement et de l'agriculture, dont le teintement de l'une contre l'autre produirait du sens en termes d'environnement et de développement durable, au lieu de l'horrible raffut que produisent les tessons du secteur environnemental quand on les agite dans le pot de fer du secteur de la technostructure agricole. Autre application pratique, qu'est-ce qu'un ingénieur? Alors la question qu'est-ce qu'un ingénieur, elle nous est posée de plus en plus souvent par la commission des titres d'ingénieur, puis de manière de plus en plus méchante, qu'est-ce qu'un ingénieur? Un ingénieur, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre comment fonctionnent les objets et pourquoi ils ne fonctionnent pas quand ils ne fonctionnent pas. Et puis, c'est quelqu'un qui est capable de porter un projet. Le problème, c'est que dans la dynamique de perte du sens dans laquelle nous sommes prises, les objets et les projets perdent leur sens. Un projet d'irrigation pour produire plus de riz, c'est un vrai projet. Il y a un objet, du riz. Il y a un projet qui est de produire du riz. Une fois que vous l'avez rebaptisé « gestion des milieux aquatiques », dans l'optique du développement durable, et que vous avez redéfini la mission de l'ingénieur comme étant de faire des jeux informatiques pour organiser la discussion autour du projet de RI, quelque part, il y a une perte. Il y a un truc qui est plus assumé. Il y a un truc qui ne fonctionne plus. Donc, depuis 25 ans, donc les ingénieurs, à un autre niveau, les ingénieurs du greffe sont pris dans une double contrainte qui est schizogène. D'un côté, ils sont pris dans une technostructure administrative, qui est le corps du greffe, le ministère de l'Agriculture. Donc là, c'est pas la technostructure au sens général, mais dans une structure administrative qui a un intérêt majeur à garder la maîtrise de l'ensemble du champ. Et donc, qui a plus intérêt à ce que les contradictions soient des contradictions internes au corps d'ingénieurs que une discussion entre des gens qui seraient chargés d'objets et de projets différents et qui discuteraient entre eux. C'est complètement structurant, ça, dans la discussion au sein du corps du greffe sur l'environnement. Le problème, c'est que sur l'environnement, ça les met dans une situation impossible, parce qu'ils ont le choix entre investir, ils ont leurs moyens, leurs personnes, les postes qu'ils peuvent créer, leur argent, et à chaque bifurcation, ils ont le choix entre investir dans des techniques de noyage de poissons, qui confirme bien qu'il n'y a qu'un seul problème et que s'il y a une contradiction, de toute façon, elle est mineure par rapport à la capacité d'unification du problème et de synthèse pratique et politique que l'ingénieur du greffe peut délivrer, ou bien investir dans une clarification des objets et des projets. Qu'est-ce qui est le projet de qui et comment on porte le plus clairement un projet, nourrir le monde, protéger les singes, lutter contre la pauvreté. Et donc, le problème, c'est que cette espèce de double contrainte, ce choix impossible, est à l'œuvre et mine progressivement le contexte dans lequel nous sommes. Il en obscurcit les débats. Il transforme les débats de débats publics formalisés qui créent de la pensée en des rhétoriques sinueuses qu'il faut apprendre à suivre. Et le métier de l'ingénieur, c'est parti au début des années 80, je sais porter des projets, maintenant il faut que j'apprenne à discuter autour de ces projets, à un autre métier qui est je sais traduire dans un langage de forme technique les flexions du discours politique. On a observé des phénomènes tout à fait incroyables, où les moirages, je suis capable de suivre en retraduisant en langage technique les moirages du champ politique. On a des exemples étonnants à montrer sur l'exercice environnement et situation locale et l'évolution des étudiants sous cet angle-là. Autre application pratique, le mal français. Peter a pu constater en discutant avec les Français que leur sujet principal, c'était le mal français. Pour être plus précis chez nous, c'est les perspectives de l'enseignement supérieur et de la recherche qui vont quand même pas très bien. Je crois qu'on peut en attester. Je me suis centré dans l'exposé sur le secteur agricole. Mais en fait, c'est pas l'agriculture qui est sectorisée. C'est l'ensemble de la technostructure française qui est sectorisée. Et la technostructure française, elle est organisée dans un pavage d'un petit nombre de secteurs qui, à eux pris ensemble, il y en a moins que les doigts d'une main, maîtrisent la totalité des moyens de pouvoir et des moyens de savoir, ou du moins l'essentiel des moyens de pouvoir et des moyens de savoir. Quand je dis un pavage, c'est dans un sens précis. Ça veut dire que rien n'échappe aux différents secteurs et deux, qu'il n'y a pas de redondance entre les différents secteurs. C'est une, je ne sais pas comment disent les mathématiciens des ensembles, c'est une partition totale de l'espace. Et ce point est complètement crucial parce que si le pavage n'était pas total, soit il y aurait des grands interstices dans lesquels de nouvelles choses peuvent émerger. Mais on voit l'énergie avec laquelle les dalles bougent pour se coller les unes aux autres. Soit il y aurait plus de dalles que d'espace, et dans ce cas-là, on aurait la déformation possible d'un espace n-dimensionnel projeté sur un espace i-dimensionnel avec i inférieur à n. Là, on peut avoir des changements de topologie. Mais à partir du moment où vous avez un pavage dans l'espace fixe, c'est terminé. Il n'y a pas de transformation possible de la morphologie de cet espace. Donc ça pose un sérieux problème. Le deuxième, donc on en a vu toutes sortes de conséquences là au sujet de l'agriculture. La deuxième conséquence qui est mal vue, mais qui est déterminante, c'est la confusion entre la centralité sectorielle, être au centre d'un secteur, et la place dans les hiérarchies de l'élitisme français. Qu'il s'agisse de l'élitisme et de l'administration, c'est-à-dire des hiérarchies de pouvoir au sein de l'administration, ou qu'il s'agisse de l'élitisme académique, l'équation fatale est au cœur du système. Si tu es très bon, tu ne peux l'être que si tu es au centre du secteur. Sortons 2 minutes du secteur agricole, on va aller au CNRS. Au CNRS, il y a une équation qui dit que si tu fais de la sociologie de l'environnement, tu ne peux pas être comparable académiquement à quelqu'un qui fait de la physique nucléaire. Ce n'est pas possible. Et donc, il y a un rabattement partiel ou total de la dimension sectorielle sur la dimension de l'excellence académique. Mais ça, c'est fatal, parce que ça rend impossible d'utiliser le plan académique comme espace de consistance sur lequel discuter pour transformer la société dans un sens de développement durable, ou pour transformer les programmes de recherche et d'enseignement. Pour moi, alors, application pratique, les départements au sein des écoles d'agriculture, ça fait 25 ans que j'observe l'agro et que je m'émerveille de sa capacité à ne pas créer d'équipe et d'enseignement environnemental en son sein. C'est pas que personne n'a eu l'idée. Pour croire que personne n'a eu l'idée, il faudrait être le type qui arrive à Chamonix, qui voit une magnifique prairie, qui se dit pourquoi personne n'a jamais fait un chalet là-dessus. Bah, c'est parce qu'il y a une avalanche tous les 10 ans, c'est pas compliqué. Donc, le pavage, il se traduit aussi à l'intérieur des organisations, il est dans les esprits, et surtout, il est intériorisé comme excellence académique, c'est-à-dire que pour être dans l'excellence académique, il faut être au sein des secteurs. Si on n'est pas dans les secteurs, c'est qu'on est moins bon. Périphérique par rapport au secteur veut dire plus bas dans la hiérarchie académique. Je pense qu'il y en a autour de la table qui comprennent ce que je raconte. Donc, enfin, l'institution universitaire, dans la plupart des autres pays du monde, le passage entre les préoccupations de la société et le monde savant, il se fait par une sorte d'osmose sur toute la surface de l'institution universitaire, où les causes pénètrent, les sensibilités, les modes, les gens discutent, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre système français, le système universitaire est subordonné au système des organismes de recherche et des grandes écoles, qui, lui, est pavé, quadrillé par les secteurs, y compris le CNRS. Et donc, il existe des marges de décompression, de manœuvre, etc. Ça n'est pas extraordinairement visible parce que le système universitaire fonctionne, mais en réalité, il est partiellement dévitalisé par le secteur, par la partie de la technostructure qui est la technostructure elle-même, sectorialisée, pavée par les secteurs. Bon, je vous rassure, on avance. Vous remarquez qu'au début, j'ai pas fait de promesse sur la durée de l'exposé. L'autre fois, j'ai commencé un exposé en disant « Je ne suis pas Fidel Castro ». À la fin de l'exposé, j'ai juré que je ne le referai jamais. Donc, il me reste simplement... Non. On est à la fin, là, pour le développement d'un programme de recherche. Mais c'est simplement, j'ai un coup de massue avec l'épilogue. Donc, alors, le nouveau pacte... Alors, on retrouve... Là, je maille avec les précédents aspects de RES. Une de mes préoccupations, c'est de dire qu'après 25 ans d'Empire du sens, qui ont suivi à 25 ans de tyrannie de la critique surplombante, notamment marxiste, il faut changer de braquet, qui a besoin de trouver un nouveau pacte critique. Et ce nouveau pacte critique, on voit sur quoi il peut reposer, c'est à la base de notre travail, c'est sur le fait d'assumer un pluralisme des préoccupations, qui refuse de ramener les différentes préoccupations, produire des aliments, protéger les grands singes, en les ramenant à une sorte de métapolarisation. C'était le grand défaut de la critique marxiste. Elle disait, nous, on a un modèle global, et chaque lutte sectorielle, on peut la voir comme un morceau d'une lutte plus globale. On voit ce à quoi ça menait. L'Empire du sens a sorti de nous désextirper de l'espèce d'effondrement que cette critique du surplomb a fait, c'est pas pour y retourner. Donc il faut accepter qu'on peut faire des récits qui soient plus que des petits récits à la noix comme ceux qui sont prônés aujourd'hui, mais sans retomber dans les grands récits que critique le postmodernisme. Un point clé que je frôle juste, c'est que on peut être rassuré par les résultats de recherches récentes sur le fait que le pluralisme des préoccupations n'a pas vocation à déboucher sur un émiettement des préoccupations. En France, on a une perte, on a une crainte panique de l'émiettement, du fait de se dire, mais si on accepte les divergences, on n'arrivera jamais à remettre toutes les grenouilles dans la brouette. Mais en fait, j'y reviendrai une autre fois, on s'aperçoit que cette inquiétude est sans fondement. Et l'espèce de pulsion d'émiettement, elle est au contraire la contre-réaction à l'excès de préoccupation d'unitarisme. Bon, il faut sortir de l'empire du procédural. Il faut, donc je rajoute avec ça une brique à l'édifice de la réflexion sur les postures, etc., qui a été commencée avec les autres séances RES 0, 3 et 4. Et je me confirme dans l'idée que nous sommes fondés à exiger des chercheurs qui travaillent dans le cadre de la technostructure, qu'ils assument l'orientation de leurs travaux dans les luttes idéales. Ils ne peuvent pas nous dire, moi je suis un vrai chercheur, je produis du savoir sur les trucs, etc. Non, 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 non. Ils doivent assumer le sens de leurs travaux dans le cadre des luttes idéales, telles qu'elles se déroulent dans la conjoncture actuelle du débat intellectuel et du problème pratique de l'agriculture et l'environnement. Et nous, on est toujours mal compris parce que nous, on met carte sur table, on commence nos articles en disant, voilà, nous, notre lutte, c'est de répondre clairement à la question, est-ce qu'on pourra encore avoir des grands singes dans 25 ans? Les autres questions, c'est autre chose. Mais nous, c'est ça notre critère qui fonde l'analyse du système. Donc nous, on met sur la table quel est le sens qu'on donne dans le cadre de la discussion à nos productions d'idées. Eh bien, nous sommes fondés, je pense que la démonstration le dit, à exiger que les autres fassent de même. Et s'ils ne le font pas, ils sont libres aussi de ne pas le faire, mais en tout cas qu'ils ne viennent pas nous raconter que c'est au nom de la recherche, de la neutralité et autres fadaises. Alors, ça aussi, ça va être intéressant, ça reboucle avec nos travaux sur le contenu des différentes théories sur la gestion de l'environnement, je passe très vite, pour insister sur un point crucial. Depuis 25 ans, nous sommes sous l'empire de mouvements d'idées qui considèrent que le problème, c'est la sectorialisation, qui considèrent que c'est parce que nous avons divisé l'action publique en départements ministériels, en secteurs, etc., que nous avons créé inutilement des conflits qui n'ont pas de sens et qui deviennent la cause première de notre impuissance. Or, vous rappelez que c'était un des points clés de la gestion patrimoniale au début des années 80. Arrêtons de nous disputer entre secteurs. C'est aussi une erreur qui continue, par exemple, dans le papier d'Agirit sur l'apprentissage comme modèle de la progression vers l'environnement, qui nous dit qu'il faut simplement se corriger des travers de la sectorialisation. En fait, la sectorialisation n'est pas le problème, elle est l'expression organisée de la tentative de le résoudre. Chaque secteur est par définition la prise en charge organisée d'un problème. Le secteur agricole, ben, il est la prise en charge organisée du problème. On veut bouffer. C'est relativement simple. Alors, elle est organisée, donc elle inclut d'autres séries, des intérêts économiques, etc. Les séries se bouclent. Mais en tout cas, chaque secteur, par définition, c'est la prise en charge d'un problème. Pourquoi il y a une direction commerciale et une direction technique dans les entreprises? C'est parce qu'il faut fabriquer des voitures et puis il faut les vendre. C'est deux problèmes différents. Tout le monde sait que les conflits entre ces deux types de direction sont à la base de la vie des organisations, mais ça n'enlève en rien l'importance que chaque problème puisse faire l'objet d'une série de mises en résolution propres. Donc le problème n'est pas du tout la sectorialisation en elle-même. Le problème, c'est que la sectorialisation est totale au sens du pavage dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'elle est rigide, notamment à cause de la confusion avec la notion de niveau, qu'il y a peu de secteurs, donc que la mobilité est faible et que l'impérialisme intrasectoriel devient un enjeu majeur de la plupart des acteurs, et puis que cette sectorialisation est fondamentalement niée. Il y a quelque chose dans le modèle français des choses qui est une obsession de l'unité et de l'universalité. nous pensons qu'un modèle qui ne rend pas compte de tout à la fois est un modèle qui ne rend compte de rien, d'une certaine façon. Et cette obsession qu'on ne va pas arriver à tenir l'unité nous met dans des cadres trop étroits. Et du coup, nous, de manière passionnée, chacun défend son secteur, parce que puisqu'on ne peut parler que de l'unité, dans la pratique, dans les faits, il va falloir tirer comme une bête pour arriver juste à tirer un tout petit peu l'espace trop unitaire dans lequel on nous enferme. Donc, on rebouclera sur le contenu des recherches sur négociation et concertation, on rebouclera sur le contenu des recherches sur la prospective, on rebouclera sur les théories de la gestion sociale de l'environnement, c'est les trois axes de recherche de notre groupe de recherche, mais là, je pense qu'il n'est plus temps de détailler ça. Et donc, on arrive à l'épilogue. Donc pour l'épilogue, je vais simplement reprendre la thématique centrale en m'appuyant sur deux penseurs français des années 60, FR et GD. Alors FR, c'est Fernand Reynaud. Vous connaissez tous le sketch des croissants, le type qui arrive au bistrot, je voudrais un café avec deux croissants. Puis le serveur, un café avec deux croissants, le serveur, nous n'avons plus de croissants, monsieur. Ah bon, bah, alors je voudrais un verre de lait avec deux croissants. Etc. Puis un jus d'orange avec deux croissants. Et puis à la fin, il y a un autre consommateur qui commence à crier sur le client en lui disant « Mais arrêtez de faire chier le garçon !» Et puis là, le ton monte et le client qui s'est retourné contre le type qui voulait des croissants lui hurle dessus en lui disant « Si j'étais le garçon, je vous aurais foutu mes croissants sur la figure. » Donc, pendant longtemps, j'ai cru... Ce qui me faisait rire, c'était le client. Je croyais que c'était le client qui était con. Mais c'est pas vrai. C'est le garçon, c'est la technostructure. Le client, c'est la société qui veut de l'environnement. La société peut la demander comme il veut. Je veux de l'environnement. Tiens, tu auras des biocarburants. Je veux de l'environnement. Tiens, tu auras de l'agriculture raisonnée. Je veux de l'environnement. Tiens, tu auras des programmes de développement dans les PVD. Donc, ce sketch, il illustre cette incapacité à entendre, ce manque de dialogue entre la technostructure, qui était d'ailleurs au thème que Fernand Reynaud exprimait parfaitement. Lui, il n'avait pas non plus de problème pour être en phase avec la société. C'était le 22 Asnières. Il y a la technostructure et puis il y a le gars qui veut appeler Asnières. Il ne peut pas. Voilà. J'ai un peu le sentiment d'être le client depuis 20 ans, le client dans le café. Et là, c'est extraordinaire. Il y a des ouvriers, des peintres en publicité qui arrivent. Et puis, il s'apprête à peindre à rebaptiser le café au bon croissant. Alors là, c'est plus l'univers de Fernand Reynaud dans lequel on est. On bascule dans l'univers de Raymond DeVos. Là, c'est la schizologie généralisée. Le gars qui demande où est le car pour quand et où les gens comprennent quand l'horaire quand on lui dit qu'on veut aller à Caen, etc. Là, on me dit l'environnement, oui, c'est les productions végétales, oui, d'accord, tout. Il y a une forme de non-sens là qui est en train d'exploser. Et cette schizologie généralisée, il y a un autre penseur des années 60 qui s'est penché dessus, c'est Deleuze. Et donc, on va, et c'est le coup de massue final, lire ensemble et commenter cette citation de Deleuze, parce qu'elle va nous permettre de reconnecter avec le travail théorique qui est le nôtre, puisqu'on est quand même dans le cadre d'un groupe de recherche. L'élément génétique, celui qui ouvre l'espace de sens, n'est découvert que dans la mesure où les notions de vrai et de faux sont transférées depuis les propositions vers le problème que ces propositions sont censées résoudre. La catégorie de sens remplace celle de vérité. Le problème, loin d'indiquer un état subjectif et provisoire de la connaissance empirique, renvoie au contraire à une objectivité idéale, à un complexe constitutif du sens et qui fonde à la fois la connaissance et le connu. C'est le rapport du problème avec ses conditions qui définit le sens comme vérité du problème en tant que tel. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris au premier coup, il réexplique « Le sens est donc exprimé comme le problème auquel les propositions correspondent. » En tant qu'elles indiquent des réponses particulières, signifient les cas d'une solution générale, manifestent des actes subjectifs de résolution. Donc, vous vous rappelez que la première partie plus théorique de mon exposé, je l'avais terminée avec l'histoire de consternation internationale. Donc, j'avais terminé sur une touche concrète. Là, je termine la partie plus pratique sur une touche abstraite. Mais c'est exactement la même chose qui est dite. L'ONG qui achète des droits de production forestière locale, au fond, c'est une réponse à quel problème cet achat? C'est ça la dotation de sens. Dans une optique purement tiers-mondiste, la personne en question disait, c'est un déni de droit dans le bien-être à long terme des pauvres ruraux. Mais ça, si ça se traduit par le fait d'interdire de voir une proposition, là on est bien en présence d'une proposition, il faut faire comme si, ou on constate ceci, en quoi elle répond ou pas à des questions environnementales, c'est ça la question du sens vu d'un point de vue environnemental. En quoi ce cas de la forêt dont les droits d'exploitation sont rachetés constitue une réponse particulière? Ou en quoi elle est le cas particulier d'une forme de solution générale au problème? À quel problème? Et du coup, on est ramené à cette citation-là qui nous dit, au fond, le sens, c'est la vérité des problèmes. Et la perte de sens qu'on éprouve dans nos discussions sur la recherche, le supérieur agricole ou les théories de la gestion d'environnement, c'est que ce qui est en jeu, c'est la vérité du problème environnemental. Est-ce que c'est un vrai problème? Tant que on accepte d'entrer dans un débat où une réponse empirique ou de proposition d'action qui est une vraie réponse, mais pas une réponse au problème qui est posé, on accepte de fonctionner comme un chat dans une essoreuse, dans l'empire du non-sens. Et ça renvoie au contenu théorique de notre approche de l'analyse stratégique de la gestion environnementale, l'axiomatique de base de la SGE. Elle consiste à ouvrir un espace de questionnement dans lequel il n'est pas possible de dire la question environnementale qui sert de référence à l'analyse n'est pas une vraie question. Donc, la question du sens, c'est celle de la vérité des problèmes. Et la lutte idéale qui est la nôtre, c'est celle de la vérité du problème environnemental ou de tel problème environnemental. Nous ne savons pas si nous l'avons, la vérité, mais elle doit recevoir sa chance en termes d'élaboration théorique et en termes d'investigation empirique, et donner sa chance à la vérité d'un problème, en fait. C'est ça, la nature du travail des idées. Donc, pour conclure, je dirais que une fois, je reviendrai sur la question des portes ouvertes. Tout ce que j'ai dit, au fond, on le sait déjà. La situation ne va pas changer. J'ai dit ça va rien changer à la situation, mais d'une certaine manière, elle n'est plus tout à fait la même.